BFM Business présente.
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un. On n'est pas d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Des ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening, business.
Il est 18h, soyez les bienvenus comme tous les soirs dans Good Evening Business avec Audrey Tcherkov. Bonsoir Audrey.
Bonsoir Guillaume et bonsoir à tous.
Dans l'actualité ce soir, forcément, on va vous parler de la réforme des retraites encore parce que notamment, on est en train de se rendre compte qu'à trop vouloir amadouer l'opinion, les syndicats ou encore l'opposition, le gouvernement est en train de dépenser des milliards et de dilapider peut-être une partie des recettes qu'il espérait tirer de cette réforme. On va en parler, puis on verra ça dans 10 minutes avec une députée des Républicains. On va beaucoup regarder les Républicains dans les prochaines semaines, bien sûr.
Oui, et nous allons aussi parler de ce fameux taux d'usure. C'est ce taux plafond au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. Donc il y a une réflexion en ce moment, justement, pour le faire évoluer et pour qu'il puisse être réévalué tous les mois et non tous les 3 mois, comme c'est le cas aujourd'hui, ce qui arrangerait évidemment les banques, mais aussi et surtout les emprunteurs.
Absolument, on en parle dans le grand débat. Puis côté entreprise, vous avez une succession qui s'accélère chez LVMH. Vous savez, il y a un mois, c'est Antoine Arnault, le fils de Bernard Arnault, qui prenait la tête de la holding familiale. Là, c'est sa fille qui prend la tête carrément de Christian Dior. On en parlera avec un analyste. On vous parlera de beaucoup d'autres choses parce qu'on est ensemble, bien sûr. Et ça commence jusqu'à 20h.
C'est parti.
Good evening business, le journal.
Donc, le message d'Emmanuel Macron très ferme ce matin au Conseil des ministres. Bonsoir Thomas Sasportas.
Bonsoir Guillaume Paul.
La réforme des retraites est indispensable et vitale, je cite, pour préserver le système qu'il veut, dit-il, équilibré en 2030. Sauf que on est en train de se rendre compte d'une chose, Thomas, c'est que l'équilibre en 2030, c'est loin d'être gagné, cette histoire, finalement.
Et ça ne tient déjà qu'à un fil, Guillaume, parce que d'après les prévisions présentées hier par le gouvernement dans le cadre de cette réforme des retraites, eh bien, il n'y aurait en 2030 qu'un excédent de 300 millions d'euros. Ouf. 300 millions d'euros à l'échelle d'un système de retraite qui pèse 340 milliards d'euros de dépenses par an. C'est vraiment l'épaisseur du trait, pour reprendre la formule des opposants à la réforme. Et si vous regardez dans le détail, vous avez effectivement un déficit de 13,4 milliards d'euros en 2030, c'est rien fait. Face à ce déficit, vous avez des recettes supplémentaires de 17,7 milliards grâce à la réforme. Donc ça nous fait à ce stade un excédent de 4,3 milliards. Sauf qu'il faut rajouter le coût des mesures d'accompagnement présentées hier, qui coûte au total 4,8 milliards. Donc on rebascule dans le rouge à hauteur de 500 millions d'euros. Et pour combler ce petit déficit, eh bien, l'exécutif fait un tour de passe-passe budgétaire à hauteur de 800 millions d'euros entre les cotisations vieillesse et accidents, maladies et de travail des entreprises. Donc on voit bien que le gouvernement est déjà quand même un petit peu en train de bricoler en jouant avec les cotisations des entreprises.
Et là, on est déjà ric-rac, Thomas, pardon de le dire comme ça, alors que l'examen du texte n'a même pas commencé à l'Assemblée, c'est ça?
Voilà, aussi, et on sait déjà que la facture va s'alourdir d'un milliard d'euros supplémentaires, puisque la retraite minimum à 85% du SMIC va finalement concerner tous les retraités. Et puis surtout, il y a deux chiffres qui interpellent. Le premier, c'est que le COR prévoit en 2035 un déficit non plus de 13,4 milliards, mais de 21,2 milliards d'euros. Et donc les nouvelles recettes liées à la réforme ne suffisent pas. Et puis l'autre chiffre, c'est que toutes les prévisions du COR reposent sur un taux de chômage à long terme de 4,5%. Alors qu'aujourd'hui, on est à 7,3%. Et personne aujourd'hui n'est en mesure de dire si le chômage va descendre aussi bas. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est que si le taux de chômage reste autour de 7% en 2030, eh bien le déficit avant la réforme ne serait plus de 13 milliards, mais de 20 milliards d'euros en 2030. Et donc la réforme, là aussi, ne suffirait pas à combler le déficit.
Tout ça est donc très précaire. Merci beaucoup Thomas Sasportas. Audrey, plus ça va, plus les heures passent, plus on découvre de choses autour de ce qui a été annoncé hier. Vous avez d'autres choses?
Absolument. Alors le point, évidemment, qui m'inquiète, c'est que cette réforme, elle ne sera pas plus juste pour les femmes, contrairement à ce que Elisabeth Borne a annoncé hier. Non seulement elle ne propose rien pour réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes, vous savez qu'aujourd'hui, il y a un écart de 40% entre les deux, ce qui est énorme, ce qui est évidemment dû principalement aux carrières hachées, principalement portées par les femmes. Et donc, là, ce qu'on a, c'est que les femmes qui auront bénéficié d'un congé parental pour élever leurs enfants, elles pourront intégrer un maximum de 4 trimestres de leur calcul, mais c'est vraiment une mesure. Voilà, et on peut s'étonner que ce sujet ne soit pas plus porté politiquement.
Voilà tout ce qu'on découvre petit à petit quelques heures après en présentation de ce projet de réforme des retraites. On en parlera nous bien sûr dans le grand débat à 18h30. Et puis si le sujet vous intéresse par ailleurs, vous allez sur les comptes BFM Business sur les réseaux sociaux. Duel tout à l'heure, 18h30 également, entre l'économiste et député Renaissance Marc Ferracci et le patron de la CFE-CGC François Omeril, à suivre donc sur les réseaux sociaux à partir de 18h30, 18h04 en attendant. Est-ce que les choses pourraient s'arranger pour ceux qui cherchent un crédit IMO? Il y a une réunion aujourd'hui pour éventuellement réviser tous les mois et non plus tous les trimestres. Vous savez, le fameux taux d'usure, ce taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter, c'est le niveau de ce taux qui freine le marché et qui handicape aussi les banques, très clairement, aujourd'hui. Marie-Cœur de Roy.
C'est la Banque de France qui a toujours eu les cartes en main et cette fois, elle va sans doute les abattre. À la clé, une réévaluation mensuelle du taux d'usure. Ce taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter n'est aujourd'hui revu que tous les 3 mois. Un rythme trop lent pour leur permettre d'adapter leur politique tarifaire à la hausse de leurs propres coûts. Les banques étant de plus en plus nombreuses à préférer ne plus prêter du tout plutôt que de le faire à perte, la Banque de France est désormais prête à agir. Il s'agira d'une mesure d'urgence. Il ne faudrait pas attendre avril, nous dit d'ailleurs un courtier convaincu que cette décision permettra de débloquer le marché. On parle pour l'instant d'une entrée en vigueur pour mars et pour une période limitée. Un semestre renouvelable serait l'idéal, nous dit-on, car il faudra aussi observer les effets de cette mesure. Les taux n'augmenteront pas nécessairement plus fort qu'avec le système actuel, mais forcément beaucoup plus vite. On parle déjà de 3,5 voire 4% en moyenne dès le printemps.
Voilà les explications de Marie-Cœur de Roy. Parce que les chiffres le monte, Audrey, les banques prêtent beaucoup moins depuis quelques temps.
Oui, et c'est intéressant parce que contrairement justement à ce que dit la Banque de France, qui dit que les banques ont continué à la fois à servir les emprunteurs de toute classe d'âge, de revenus et ce pour tout motif d'acquisition, eh bien l'Observatoire Crédit Logement de l'autre côté montre précisément l'inverse avec un recul de 40% de la production de crédit immobilier. Donc en effet, réussir à revoir ce taux d'usure tous les mois au lieu de tous les trimestres facilitera beaucoup les choses.
Voilà donc pour ces chiffres qui ont été communiqués aujourd'hui. Aux États-Unis, c'est rarissime. Le trafic aérien a été totalement interrompu pendant quelques heures tout à l'heure à cause d'une panne de système de l'administration fédérale de l'aviation. Tous les vols au départ du pays ont été cloués au sol pendant 2 heures. Trafic a repris ce soir, mais on ne connaît toujours pas les causes réelles de ces dysfonctionnements. 18h06, on revient en France. Avec encore du changement, je vous le disais, dans l'organigramme de LVMH. Bonsoir Pauline Tadevin.
Bonsoir Guillaume, bonsoir à tous.
On apprend quoi? Que c'est Pietro Beccari qui devient patron de Louis Vuitton et Delphine Arnault qui devient PDG de Christian Dior Couture. On se souvient qu'il y a un mois, c'est Antoine Arnault, son frère, qui avait pris la tête de la holding familiale. C'est-à-dire que la succession de Bernard Arnault est encore en train de s'organiser, là, clairement, Pauline, désormais.
Là, ce qui se passe aujourd'hui, c'est un petit peu le sens de l'histoire. Pietro Beccari, qui est dans le groupe depuis 2006, qui est membre du comité exécutif, qui a dirigé Fendi et Christian Dior. Il remplace Michael Burke, 65 ans, un historique qui prend de nouvelles fonctions directement auprès de Bernard Arnault. Delphine Arnault, elle, donc, prend aussi du galon. Après avoir été directrice générale de Louis Vuitton, elle prend la tête d'une autre pépite du groupe, Christian Dior. Ses nominations sont bien sûr l'expression de marque de confiance de Bernard Arnault, qui aura 74 ans en mars prochain, d'une volonté peut-être de renouveler les générations dans l'état-major et une étape aussi après le passage de la société en commandite l'été dernier, un passage en commandite qui vise à pérenniser le contrôle familial sur le groupe. BA, comme disent ses proches, a à cœur que cette transmission se passe bien, mais rien ne laisse pour autant clairement entendre qu'il s'apprête à lâcher les rênes ni qu'il a désigné son dauphin. Derrière Antoine et Delphine, il y a 3 autres enfants, tous en poste dans des maisons familiales. Il y a Alexandre, qui est le vice-président exécutif de Tiffany. Il y a Frédéric, qui est le patron de Tag Heuer. Et il y a Jean, qui est directeur du marketing et du développement des montres chez Louis Vuitton.
Voilà, le groupe qui est en train de façonner et de préparer l'avenir. Merci beaucoup, Pauline. 2-3 mots avant d'aller sur les marchés. Dans le secteur de la pharma, on apprend que Novartis pourrait supprimer jusqu'à 400 postes en France dans le cadre d'un plan de transformation annoncé il y a 2 ans. C'est le groupe qui l'a annoncé lui-même aujourd'hui. Énorme contrat décroché par Vinci dans l'éolien offshore. C'est sa filiale Cobra qui a été choisie pour concevoir, construire, installer en mer du Nord 2 plateformes de conversion d'énergie éolienne. Tout ça au large de l'Allemagne. Énorme contrat évalué à plus de 4 milliards d'euros. Et puis Canal+, qui se dit prêt finalement à investir 1 milliard d'euros dans le cinéma français sur 5 ans. C'est ce qu'a déclaré son PDG Maxime Saada. Canal+, vous savez, qui vient de racheter officiellement Orange Studio et les chaînes OCS. 18h09. On va sur les marchés tout de suite sur BFM Business. Les marchés, on retrouve Étienne Brack depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, on a terminé en hausse ce soir à la Bourse de Paris.
Une nouvelle fois, et un CAC 40 qui s'installe au-delà des 6900 points. Figurez-vous qu'on est sur les niveaux de février dernier et on est à moins de 1% des fameux 7000 points. 6924 points ce soir à la clôture. Séance positive également du côté des États-Unis avec les marchés qui sont toujours persuadés que l'inflation va ralentir. Figurez-vous qu'on va le savoir demain, 14h30, l'inflation aux États-Unis pour le mois de décembre, avec beaucoup d'attentes par rapport à ce chiffre. En attendant, vous avez le marché obligataire qui recrute très clairement. On avait un 10 ans français qui était au-delà des 3% fin décembre. Et bien, figurez-vous qu'on redescend à 2,67 aujourd'hui. Donc forcément, c'est bon pour le marché action. Vous avez notamment le secteur du luxe qui est très très bien orienté. Il y a une valeur qui est sur un record historique une nouvelle fois ce soir, c'est LVMH. Vous en parliez il y a un instant. Titre à 772 euros. Et puis à l'inverse, les valeurs défensives qui avaient plutôt bien profité, notamment de l'année dernière, du climat incertain, figurent comme les plus fortes baisses ce soir à la clôture, avec des baisses de plus de 2%, que ce soit pour Thales ou encore Eurofin. C'est donc une très belle séance à la Bourse de Paris. Plus 0,8% ce soir au fixing, toujours au-delà des 6900 points, 6924 points.
On regarde ce qui se passe du côté de Wall Street à la mi-séance. En ce moment, le Dow Jones qui grappille 0,3%, 33 819 points. Et puis l'indice Nasdaq, lui, qui grappille 1%, 10 849 points. Tout ça à la mi-séance, 18h11. C'est notre premier invité, la députée Les Républicains, Véronique Louvargie, tout de suite sur BFM Business.
Good evening business, l'invité.
Bonsoir Madame Louvargie, bonsoir.
Bonsoir.
Merci beaucoup, installez-vous, je vous en prie.
Bonsoir et bienvenue
députée
sur ce plateau.
Les Républicains de l'Orne, vice-présidence de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale pour parler des retraites, bien sûr. Avec vous ce soir, parce qu'on a entendu Olivier Marleix, on a lu hier sa déclaration, hier soir, satisfait d'avoir été entendu sur le rythme de la réforme et les petites retraites. Est-ce que ça veut dire que les jeux sont faits et qu'on peut considérer qu'une grosse partie des députés LR vont voter cette réforme, Madame Louvagie?
Je crois que les jeux ne sont pas faits. Il y a eu des annonces d'un dispositif général avec des généralités, des grands axes qui ont été annonces effectuées par la Première Ministre. Effectivement, nous sommes satisfaits parce que la Première Ministre, le gouvernement, a renoncé à une brutalité dans cette réforme qui était de prévoir un relèvement de l'âge à 65 ans en 2027. Ouais. Donc c'est vrai que nous sommes satisfaits, 63 ans 2027, quelques années plus tard 64 ans, voilà, cela nous satisfait. Nous avons d'autres points de satisfaction également. Je pense notamment aux petites pensions.
Oui. Hein,
si la Première Ministre, le gouvernement, très vite, avait évoqué un relèvement de ces petites pensions à 1200 euros, 85%
du SMIC. Le minimum contributif, donc voilà.
Voilà. Il y a eu quelques incertitudes, en tout cas, de savoir si cela concernait uniquement les flux, c'est-à-dire les nouveaux entrants ou le stock.
Oui.
Depuis hier, c'est un petit peu éclairci, et là, nous sommes satisfaits parce qu'effectivement, c'était un point fort. Nous avons d'autres points forts, notamment qui concernent la durée des cotisations.
Oui.
Point qui a été retenu déjà pour les moins de 20 ans, qui fait que une personne qui commence à travailler et qui travaillera 44 ans pourra prendre sa retraite.
Audrey.
Mais alors, ce que vous nous dites, c'est que finalement c'est un texte satisfaisant qui respecte le pacte social et que vous allez voter avec conviction au Parlement.
Alors c'est un texte satisfaisant sur un certain nombre de points. Il reste un certain, c'est un texte très technique en fait.
Gardez quelques points pour la soif, donc c'est ça qu'il faut comprendre. Madame
il reste des points, par exemple la question des pensions de réversion. Ça n'a pas été évoqué. Voilà. Or, il y a des vrais sujets sur les pensions de réversion qui concernent le plus souvent d'ailleurs les femmes, puisque bon, compte tenu des niveaux d'espérance de vie qui sont différents entre les femmes et les hommes, plus souvent nous avons plus.
Alors
de
justement,
que de
qu'est-ce qui a été selon vous donner aux femmes qui évidemment sont beaucoup plus porteuses de carrière hachée que les hommes pour réduire les inégalités entre les femmes et les hommes, sachant qu'on a un différentiel de 40% à peu près en termes de retraite.
Oui. Alors il y a la prise en compte des congés parentaux qui vont être intégrés dans les
carrières. C'est une réformette.
Oui, rien n'est une réformette, parce que je crois qu'il faut pouvoir avancer sur un certain nombre de
dispositifs. Oui, 4 trimestres
après,
en plus.
Il y a un certain nombre, mais c'est déjà 4 trimestres en plus, et quelquefois ça apporte des
éléments. Oui, mais est-ce que c'est ça qui va réellement réduire cet écart de 40%?
Non, je ne pense pas. On a déjà un écart, c'est un autre sujet, sur les salaires.
Évidemment.
Voilà. Et je dirais, si on voulait rétablir l'égalité, il faudrait déjà agir, et c'est un vrai sujet sur lequel nous ne parlons pas assez, parce que nous en parlons de manière très ponctuelle, mais je pense que ça devrait être un combat de toutes et de tous chaque jour. Voilà, donc nous avons des satisfactions, mais il reste plein de points de détails à voir. Nous savons que le diable se cache dans les détails.
On est quand même un petit peu étonné en 2023, Mme Louvagie, de voir que c'est pas LR qui a porté la ligne ferme des 65 ans et des moindres contreparties. Vous savez ce qu'on dit, que vous avez demandé
le minimum contributif pour l'ensemble des retraités pour flatter d'une certaine façon votre électorat. Voilà, on ne reconnaît pas vraiment le logiciel idéologique économique de LR, si tant est qu'il y en ait un aujourd'hui. On le cherche un petit peu, à vrai dire.
Vous savez, je crois que la vie change. Moi, je suis députée, c'est mon troisième mandat, et je pense que la situation évolue. Et nous devons nous adapter à l'évolution des situations. Ça c'est une vérité. Ce qui est très important, c'est de corriger des injustices. Et ça, je crois que c'est fort. Et là encore, également un autre point, il ne peut pas y avoir de brutalité dans une réforme. Parce que passer à 65 ans en 2027, c'était 4 trimestres chaque année à prendre en compte. C'était énorme. Passer de 62 ans à 65 ans sur une période de 4 ans, vous rendez compte, l'impact, c'est très fort.
Et pourtant, ce que dit Guillaume, c'est que c'est surprenant, parce qu'en effet, le parti que vous représentez a défendu ses 65 ans auprès des deux candidats précédents.
Écoutez, je crois qu'il y a eu des résultats aux élections présidentielles qui montrent que notre projet n'a pas séduit, en tout cas, les Français.
D'accord, donc vous dites que vous y êtes ravisé.
Vous êtes ravisé sur les 65 ans.
Non, pas du tout. Je crois qu'on s'adapte à la situation. Nous avons vécu une crise sanitaire, nous avons une crise énergétique aujourd'hui. Voilà, il y a un certain nombre de points en matière de transition écologique qui ont pris une importance qui n'existait pas, ou dont nous n'avions pas conscience il y a quelques années. Donc, par rapport à tout ça, je pense qu'il y a des évolutions. Nous nous adaptons, nous évoluons. Et en tout cas, ce qui est notre fil conducteur, c'est l'intérêt des Français. Voilà. Et l'adaptation.
Là, c'est pas l'intérêt des actifs. Est-ce que vous trouvez normal de faire porter l'effort uniquement sur les actifs dans cette histoire, finalement ? Et pas du tout sur les retraités, pour être honnête.
Ni sur les entreprises.
Ni sur les entreprises. Ouais.
Oui. Alors, je crois que sur cette question des retraites, nous sommes très attachés au maintien d'un système de retraite par répartition. Ça, c'est le premier point. Il y a un deuxième point également, en tout cas, qui est une satisfaction au regard de l'annonce de la Première Ministre hier, c'est que tout l'argent des retraites ira aux retraites. Je le dis parce que ça a été dit par la Première Ministre en préambule, ça a d'ailleurs été rappelé par le ministre de l'Économie ensuite dans son propos, mais ça ne correspond pas tout à fait à des interventions, des propos de membres du gouvernement durant les semaines qui précèdent. Or, c'est quand même quelque chose de très important de dire que l'argent des retraites va aux retraites. Voilà. Donc, pour nous, c'est une satisfaction. Voilà. Ensuite, il nous faudra voir, adapter, faire en sorte que ce dispositif soit amélioré par rapport à... Et on a tout le débat parlementaire pour
Absolument.
Ça.
Donc, ce qu'on comprend, c'est que finalement, la majorité sénatoriale est d'accord sur ce texte. Est-ce que vous pensez que ça va être le cas à l'Assemblée nationale ?
Écoutez, je vais parler déjà des députés Les Républicains.
Mais oui.
Je vous interrogerai mes collègues des autres groupes.
C'est une question opportune parce qu'on entend comme quelques voix discordantes depuis 24 heures. Ça vous a pas échappé, Aurélien Pradi ou encore Xavier Bertrand. Je veux dire, donc on est
Écoutez,
pas sûr de faire le plan.
Moi j'ai entendu Aurélien Pradi. Nous avons discuté hier en réunion de groupe ensemble. Alors, c'est vrai, c'était avant l'annonce de la première ministre, mais bon, l'annonce sur quelques lignes en tout cas de points de divergence ne nous a pas surpris. Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut une réforme des retraites, que celle-ci est urgente, que nous sommes attachés au système de retraite par répartition et qu'il faut intégrer effectivement la durée de cotisation, que seul le relèvement de l'âge limite de retraite, de l'âge de départ à la retraite, n'est pas suffisant. Voilà. Après, il y aura des ajustements. Est-ce que cette durée de 44 ans, puisque finalement c'est cela qui revient, pour être un petit peu plus précis, et la durée qu'il faille retenir, est-ce que ça n'est pas 43 ans ? Je crois qu'il y a des ajustements, il y aura des discussions, des débats. Et heureusement qu'il restera aux parlementaires la possibilité d'intervenir, de préciser.
Justement, serez-vous assez raisonnable pour ne pas davantage charger la barque ? On le disait tout à l'heure, des milliards déjà lâchés pour faire passer la pilule, entre guillemets. Est-ce que vous craignez que ce débat budgétaire ne se caractérise par de nouvelles concessions avec d'autres milliards qui viendraient dilapider une partie des recettes, finalement, de cette issue de cette réforme ?
Je crois qu'il appartiendra aux...
Le débat n'a pas commencé que déjà, il y a beaucoup de milliards qui disparaissent aujourd'hui. On le voit très clairement.
Oui, mais je crois que dans cette réforme des retraites, il était aussi important de réajuster. Voilà, il y avait un certain nombre d'injustices qui apparaissent, de corriger aussi, de faire en sorte que les personnes qui ont des petite retraite quand vous avez des retraites de 900 euros, de 1000 euros, et moi dans ma circonscription j'en ai sur les territoires ruraux. Hein, voilà, quand vous voyez des artisans, des commerçants, des agriculteurs qui, lorsqu'ils ont eu des années de déficit durant leurs activités, n'ont pas pu valider les trimestres, parce que lorsqu'il y a une année de déficit, ça n'est pas 4 trimestres de validé dans l'année du travail, c'est simplement un trimestre. Voilà. Donc, je suis très satisfaite aussi que ce point va être abordé. Donc, je pense qu'il est important de corriger les injustices. Je crois qu'on est là pour ça. Nous, parlementaires, on doit répondre à l'intérêt des Français et améliorer, je dirais, faire en sorte qu'il y ait une meilleure égalité.
Il nous reste 30 secondes. Est-ce que vous dites que c'est quand même une occasion manquée pour la réforme systémique ou pas ?
Non, je crois que au regard de ce qui a pu, de ce qu'on a pu voir, entendre sur cette dernière période, ces derniers mois, je crois que c'est important d'y aller par étapes. Voilà. Il faudra peut-être intégrer une dose peut-être de capitalisation un petit peu plus importante. Ça peut être une idée.
Vous allez en parler. Vous allez en parler pendant l'examen budgétaire.
Oui, oui, j'en ai parlé en réunion de groupe.
Vous allez mettre ce point sur la table pendant le débat budgétaire.
J'en ai parlé en réunion de groupe mardi matin, parce que effectivement, si la natalité continue à baisser comme elle continue de baisser, nous avons ce vrai rapport entre le nombre d'actifs, le nombre de retraités. Voilà. Pour autant, moi, je suis très attachée, nous le sommes tous au niveau des députés Les Républicains, au système par répartition, mais nous pouvons intégrer des systèmes par capitalisation. Il y en a quelques-uns déjà, je pense aux lois Madelin qui existent pour les travailleurs non salariés.
Mais on note que vous mettrez ce débat sur la table pendant le débat budgétaire.
Fait. Vous pouvez le noter.
Débat qui va commencer dans quelques semaines et qu'on suivra bien sûr de très très
évidemment.
Près. Merci beaucoup,
merci
Madame
beaucoup.
Louwagie. Merci de passer nous voir. Véronique Louwagie, députée LR de l'Orne, vice-présidente de la Commission des Finances de l'Assemblée nationale. Merci beaucoup d'être passé nous voir ce soir, madame, sur BFM Business.
Merci.
18h21, on marque une petite pause et puis ils arrivent.
Voilà, on se retrouve dans un instant pour le débat avec de Good Evening Business. A tout de suite.
Good Evening Business, le débat.
Allez, 18h25, c'est parti pour le débat jusqu'à 19h avec Audrey Tcherkov, bien sûr, avec Bruno Coquet. Bonsoir Bruno, bonsoir. Bienvenue, docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Jean-Baptiste Djebari est avec nous, bonsoir.
Ravi d'être là, bonsoir.
C'est une première.
Ah, c'est une première, merci beaucoup, ancien ministre des Transports, président d'Opium, les voitures à hydrogène, très en vue sur le dernier salon de l'auto.
Absolument.
Il y avait un très très beau stand, on les a rencontrés évidemment. Et puis lui aussi, toujours très en vue, bien sûr, c'est Emmanuel Le Chip qui est avec nous. Bonsoir mon cher Emmanuel.
Bonsoir.
Nous avons parlé des retraites.
Ça encore et, pas, et toujours.
Encore et toujours. Bah, faites pas de cette tête-là.
Ça... Non, mais on est chaud. Hein.
Ça va nous tenir en haleine quelques semaines, vous savez.
Oui, oui. Oui, bah, on en sait quand même plus ce soir qu'hier.
Est-ce que vous êtes sorti de la présentation d'hier soir avec la tête farcie? C'était dense quand même. Hein. Faut le temps de gérer tout ça.
C'était technique, c'était précis.
C'était technique, précis.
Administratif un peu.
Ouais. Alors des semaines pour intégrer tout ça quand même. Hein.
Bah, si on compare quand même, attendez, faut être honnête. Si vous comparez finalement le rapport qui a été rendu hier soir d'une vingtaine de pages avec le rapport racine entre guillemets du corps, vous avez quelque chose qui est quand même extrêmement intelligible et
synthétique.
Et synthétique.
Oui.
C'est un bel effort, je trouve.
Alors un peu léger sur les seniors, Emmanuel, quand même.
De synthèse, sûr, c'est-à-dire.
Bah, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas de parler ensemble sur ce plateau tous les soirs du problème de l'emploi des seniors. Bon. Cette réforme, elle n'adresse pas ce problème.
Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord, sachant
on a un index, c'est tout.
Oui, mais vous savez très bien que il y a beaucoup de choses qui vont changer aussi à partir du comportement des entreprises. On a changé de monde sur le marché du travail. Regardez, la DARES a publié cet après-midi les statistiques, justement, sur le taux d'emploi des seniors.
Oui.
On est, en 2021, à 56%. C'est le plus haut niveau qu'on ait jamais vu depuis 1975. Depuis 2000, ce niveau augmente régulièrement de 1% sous l'effet des précédentes réformes des retraites.
Je ne suis pas d'accord.
On est un marché du travail.
Je vous ferai remarquer que chez Pôle emploi, on est senior à 45 ans. Je dis ça comme ça, au passage. Hein, voilà.
Non, mais c'est pas vrai. Le vrai problème aujourd'hui, c'est les 60-64 ans.
Mais je sais bien. Ah oui,
franchement, là, les 55-59
ans,
on est sur un niveau très élevé.
On a encore un petit moment pour en parler. Juste parler au lendemain de cette présentation des syndicats, qui, on l'a bien compris, Audrey, ne veulent pas lâcher d'un pouce sur les prochaines semaines, évidemment.
Non, en effet, c'était très palpable dans les derniers propos du leader de la CFDT ce matin, concernant notamment le recul de l'âge de départ à 64 ans. On écoute Laurent Berger.
Pour moi, c'est toujours non. Pour la CFDT, c'est toujours non. Pour l'ensemble des organisations syndicales de ce pays, c'est non. 64 ans, c'est non. Pourquoi ? Parce que cette réforme, qu'on qualifie d'ailleurs de réforme des retraites, c'est davantage une réforme des finances publiques. c'est davantage une réforme d'équilibre financier sur le seul dos des travailleurs. Les 20 milliards d'économies dont on parle, c'est sur le seul dos des travailleurs en les faisant travailler plus longtemps. Et parmi ces travailleurs, ceux qui sont le plus concernés, c'est les travailleurs modestes. Alors certes, il y a des mesures d'amortissement pour rendre la mesure moins brutale. Mais ces mesures d'amortissement, elles ne remettent pas en cause le fait que les travailleurs et travailleuses de ce pays vont devoir travailler à terme, évidemment de façon progressive, mais à terme 2 ans de plus. Donc oui, la CFDT est opposée. Et pourquoi ? Parce que depuis toujours, la CFDT est opposée au report de l'âge légal de départ en retraite.
Voilà, comme ça le décor est planté. Une grosse minute de chauffe avant de la pause et on se retrouve après sur ce que dit Laurent Berger, là, sur l'ambiance du moment. Bruno, 30 secondes. Là.
Ils sont en colère. Ce qu'on appelle une négociation dans les éléments de langage était une concertation.
Il n'y a pas eu de concertation.
C'est quand même assez différent. En plus, dans ces dernières semaines, ils nous ont dit pas avoir tout entendu. Pas avoir tout entendu dans ce qui était décidé à la fois sur l'assurance chômage et sur les retraites. Enfin, on voit bien qu'il y a un contentieux qui s'est aggravé, sans compter le fait qu'ils n'ont pas été entendus sur leurs propres propositions, ouais. Même si le gouvernement fait valoir par ailleurs qu'il a évolué sur certains points.
Jean-Baptiste Djebbari, 30 secondes en propos liminaire. Puis on
Mais il a quand même raison sur le fait que c'est essentiellement une réforme d'économie, puis Laurent Berger, depuis 2017 et avant même, et s'est quand même lui-même engagé personnellement sur une réforme systémique des retraites. Il a même été élu 2 fois dans des congrès sur cette réforme-là. Donc on peut comprendre une forme de frustration côté Laurent Berger.
Bon, tout ça est annonciateur de quoi, Emmanuel, pour vous ? Là, vous continuez de penser que la mobilisation va pas être très très forte ? Qu'est-ce que vous voyez ?
Non. Si. Moi, je pense que le scénario le plus probable aujourd'hui, c'est celui de quelques journées avec une mobilisation très forte. Est-ce que pour autant on va vers une paralysie du pays comme on a pu en connaître par le passé ? C'est un peu tôt pour le dire. Mais qu'il y ait quelques journées avec des très grosses mobilisations, c'est quand même aujourd'hui un scénario qui est probable.
Oui, et quand bien même paralysie il y aurait, est-ce que ça changerait quelque chose ? Rien de moins sûr.
Je pense que, à mon sens, les mobilisations dans la rue, c'est plus ce qui fait plier les politiques. En revanche, quand un pays est bloqué...
C'est du vécu, ça.
Croyez-moi, je parle d'expérience. En revanche, quand effectivement vous avez des problèmes d'approvisionnement en carburant, quand vous avez vraiment un pays dont l'économie commence à être bloquée, ça fait réfléchir les politiques. Et ceci n'est pas un appel.
Oui, ceci n'est pas un appel. Le débat reprend dans 2 minutes.
Good evening business, le débat.
Avec Audrey Tcherkov, donc avec Jean-Baptiste Djebbari, avec Emmanuel Lechypre et avec Bruno Coquet. Donc, on va repartir sur la retraite, bien sûr. Message très ferme ce matin d'Emmanuel Macron au Conseil des ministres. Réforme indispensable, vitale, je cite, pour préserver le système qu'il veut, dit-il, équilibré d'ici à 2030. Ça, c'est ce que disait Emmanuel Macron ce matin.
Oui, et c'est un message qu'avait relayé un peu plus tôt Bruno Le Maire. On l'écoute tout de suite.
La garantie que je donne, c'est que l'équilibre financier du régime des retraites sera garanti en 2030. Et il y a un deuxième engagement que nous prenons, qui est, je crois, fondamental et qui doit éviter des incompréhensions. Chaque euro cotisé par le nombre plus important de personnes qui cotiseront
servira au régime
servira
des retraites.
Uniquement, exclusivement,
ce que ne disait pas Emmanuel Macron il y a quelques semaines
au régime
encore.
Des retraites. Si, je pense qu'il y a pu y avoir des incompréhensions entre ce que rapportent les cotisations retraites qui ira uniquement au régime des retraites. Et puis ce que rapporte globalement une réforme des retraites. Une réforme de retraite, ça fait plus de travail global, ça fait plus de prospérité et ça fait plus de richesses supplémentaires.
Voilà Bruno Le Maire ce matin qui nous dit, alors je vais vous demander votre avis là-dessus, mais d'abord on va voir ça 2 minutes avec Thomas Asportas. Rebonsoir Thomas.
Rebonsoir Guillaume.
Parce qu'il confirme lui aussi Bruno Le Maire, l'objectif c'est de ramener le régime à l'équilibre en 2030. Mais quand on regarde les chiffres dans le détail, on se raconte que c'est pas du tout cuit cette affaire, Thomas, très clairement. Hein, faut
le dire. Ça tient qu'à un fil. Ouais, ouais. Effectivement, la réforme présentée hier ne dégagerait que 300 millions d'euros d'excédent à horizon 2030. 300 millions d'euros, il faut les comparer aux 340 milliards d'euros dépensés chaque année pour le système des retraites. Donc on voit bien quand on fait le rapport des deux que là, pour le coup, on est vraiment dans un excédent qui représenterait l'épaisseur du trait, pour reprendre la formule devenue célèbre des opposants à la réforme. Cet excédent de 300 millions d'euros en 2030, on l'obtient en agrégeant les prévisions du corps et du gouvernement. D'une part, vous avez un déficit avant la réforme de 13,4 milliards si on ne fait rien. Il faut rapporter ce chiffre aux recettes supplémentaires liées à la réforme présentée hier qui serait de 17,7 milliards. Donc on aurait un excédent de 4,3 milliards. Sauf qu'il faut rajouter évidemment le coût des mesures d'accompagnement présentées hier sur la pénibilité, sur les carrières longues ou encore sur la retraite minimum qui coûte au total 4,8 milliards. Donc on rebasculerait dans un déficit de 500 millions d'euros. Et pour le combler, eh bien, l'exécutif fait, et c'est un peu une surprise, un tour de passe-passe budgétaire, un transfert entre les cotisations vieillesse et accidents du travail des entreprises à hauteur de 800 500 millions, qui fait qu'à la fin, on retombe donc sur un excédent de 300 millions d'euros. Donc on voit bien déjà qu'on est en train un peu de bricoler pour arriver à équilibrer le système en 2030, hein, pas aujourd'hui.
C'est du Bertrand Renard dans le texte.
Alors oui, je n'osais pas le dire, mais voilà, c'est
un peu ça. On est déjà un peu ric-rac, Thomas, alors que le débat budgétaire n'a pas encore commencé, que là aussi on peut se poser des questions.
Oui, et on sait déjà que la facture va notamment s'alourdir d'un milliard d'euros, puisque la retraite minimum à 85% du SMIC va finalement concerner tous les retraités, et pas uniquement les prochains retraités. D'autre part, il est aussi tout à fait possible que le coût des autres mesures d'accompagnement augmente pendant le débat parlementaire pour rallier des voix et ne pas faire passer la réforme par 49.3. Et puis surtout, il y a deux chiffres qui interroge. Le premier, c'est que le corps prévoit en 2035 un déficit non plus de 13,4 milliards, mais de 21,2 milliards d'euros. Et donc là, on voit bien que les nouvelles recettes liées à la réforme ne suffisent plus à équilibrer le système. Et puis l'autre chiffre qui peut-être interpelle le plus, c'est que toutes les prévisions de corps reposent sur un taux de chômage à long terme de 4,5%. Aujourd'hui, c'est pas impossible, hein, mais aujourd'hui, non, mais personne n'est en mesure de dire si on va arriver à 4,5. Aujourd'hui, on est à 7,3. En revanche, ce qu'on sait, c'est que si le taux de chômage ne bouge plus et reste à 7% en 2030, eh bien, le déficit avant réforme à cette date-là ne sera plus de 13,4 milliards et de 20 milliards. Et donc là aussi, les recettes de la réforme ne suffiraient plus à équilibrer le système. En tout cas, en résumé, ce qu'on peut dire, c'est que même dans le meilleur des cas, eh bien, le nouveau régime des retraites serait à nouveau dans le déficit dans moins de 10 ans.
Merci beaucoup, Thomas.
Je ne vais pas plomber le moral, mais
non, bon, non, voilà, mais
les chiffres sont, voilà, les chiffres sont là.
On ne doutait pas de fait, c'était pas la dernière.
Des réformes des retraites, il y en a justement à peu près tous les 10 ans.
Oui, donc c'est on ça. Sait bien que ce n'est pas la dernière. Non, mais là, est-ce qu'on nous a vendu un retour à l'équilibre qui ne sera pas atteint de toute façon en 2030, voire 2035, tout simplement? Est-ce qu'on nous a pas un peu pipoté sur les chiffres? Voilà, on pose la question.
Ce qu'il faut dire, c'est que non seulement on part sur une hypothèse de 4,5% de chômage, mais de 1% de productivité par an. Exactement. Donc en effet, c'est hyper optimiste, on a vu ça depuis 15 ans.
Bruno, pour vous, enfin, voilà.
D'abord, c'est une réforme purement paramétrique. Ça, c'est première remarque. Deuxième remarque, moi, ce qui me frappe, c'est que l'ajustement, c'est-à-dire le point annoncé ce matin de l'équilibre en 2030, on peut discuter un petit peu, en tout cas l'ambition, veut dire que l'ensemble de l'ajustement porte sur 6 générations.
Oui.
Les générations qui vont partir entre 2024 et 2030. Donc, pour elles, c'est une taxe gigantesque. Hein, donc toute la réforme, tout le poids porte là, si on considère qu'après, c'était déjà dans le tuyau avec la réforme Touraine, et que le paramètre qui maintenant devient prédominant étant le nombre de trimestres cotisés et non pas l'âge, à la limite, on aurait pu dire on revient à 60 ans et on met 50 ans de cotisation. C'est un peu caricatural de le dire comme ça, mais l'idée est celle-ci. Et donc, du coup, des gens qui vont liquider au titre de l'âge, il va y en avoir de moins en moins. Déjà, il y en a moins de la moitié. Enfin, il y a bien moins de la moitié, un quart environ. Et donc, du coup, le point qui compte, ce sont les trimestres. Et les trimestres, des gens qui partent dans les 6 prochaines années pour combler le déficit. Selon comment on voit les choses, c'est à peu près 60 milliards, entre 60 et 100, sur les 6 années qui viennent, sur cette génération-là.
Pouh.
Sachant qu'en même temps, on diminue un peu l'assurance chômage et que du coup, la probabilité de trimestres manquants est grande, c'est-à-dire la probabilité de décote s'accroît. Hein, d'une certaine manière, et après il y a tout ce que les gens savent pas, le taux de proratisation, etc. qui contribue à diminuer la pension. Donc c'est massif et très concentré à court terme sur quelques générations.
Emmanuel, comment est-ce que vous voyez ces chiffres? Est-ce qu'on nous a vendu du rêve là pour vous à travers ces chiffres?
Non, mais je crois
bien que ça tient pas assez, c'est pas très réaliste.
On nous a vendu une réforme comme on en fait tous les 10 ans, mais d'ailleurs je crois pas que quelqu'un l'ait présenté comme étant la der des der, ce qu'aurait pu être la réforme initiale.
On aurait pu nous préciser, ça sera pas la der des der justement.
Mais là non, ce sera pas la der des der. Effectivement, c'est une réforme qui est quand même assez brutale, effectivement Bruno l'a dit sur le plan financier. C'est vrai aussi sur le plan du calendrier, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui s'apprêtaient à partir à la retraite là dans 6 mois et qui finalement vont pas pouvoir.
Bon bah si, qui vont partir quand même.
Bah,
ils
non,
vont partir
gens...
3 mois plus tard.
Ouais, mais si, mais prenez des gens qui ont déjà organisé leur vie d'après.
Non, mais j'entends bien, etc. Mais on parle de 3 mois.
Et puis effectivement, il faudra y revenir dans 10 ans. Et je pense que c'est une partie d'ailleurs du malentendu, c'est-à-dire que il y a énormément de gens qui se disent, mais finalement, pourquoi on nous demande à nous certaines catégories, et effectivement, plutôt les ouvriers et les employés que les cadres, dont finalement, cette réforme ne change pas la vie, puisque le cadre, par définition, c'est quelqu'un qui est plutôt diplômé, qui est entré assez tard sur le marché du travail, et qui, de toute façon, part déjà à plus de 64 ans. Donc,
c'est la réforme de la France qui va bien, quoi, si je vous écoute.
C'est un peu la réforme de la France qui va bien, et du coup, ça rend son acceptabilité.
Jean-Baptiste Djebari.
Non, moi, j'ai appris à être précautionneux avec les chiffres du corps, puisque je me rappelle qu'en arrivant en 2017, on nous avait dit qu'il n'y aurait pas de problème d'équilibre à horizon.
Ouais, mais les chiffres du corps, c'est plus un chiffre du gouvernement, si je ne m'abuse. Hein, donc,
en tout cas, ça change beaucoup et ça peut changer des fois deux ans. Ça, vous en avez fait raison pour laquelle le candidat Macron à l'époque avait tenu.
Il y a eu ça va aller très bien. Voilà. Après, il y a eu ça va aller très mal. Et puis là, ça va moyen.
Et là, à nouveau, ça se dégrade un petit peu. Ce qui est sûr, c'est que c'est une réforme sucrée-salée. On voit bien le salé. C'est exactement ce qu'Emmanuel vient de dire à l'instant. On voit quand même aussi bien les mesures d'accompagnement, le sucré, sur notamment les carrières longues, avec des dispositifs qui sont finalement assez intéressants, sur les femmes aussi, enfin les carrières plutôt heurtées, un peu sur le cumul emploi-retraite. Il y a des choses qui sont quand même pas, objectivement pas mal, en tout cas qui améliorent un peu les choses. On voit bien aussi que politiquement, il y a un choix de se dire qu'on met fin aux régimes spéciaux, et ça, on pense politiquement que c'est toujours un point qui peut faire un peu consensus. Et puis on observe enfin, un peu philosophiquement, qu'on ne demande pas d'efforts aux retraités dans ce pays, comme souvent. Donc ça peut aussi là poser question.
Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, qu'on ne fasse pas porter l'effort?
Je sais qu'en fait, il y a une préférence pour les retraités. Il y a une préférence des politiques pour les retraités depuis très longtemps, et par-delà même le clivage politique.
Alors vous voyez, c'est là qu'on voit quand même que l'électorat d'Emmanuel Macron, lui aussi, il a vieilli quand même. Parce que j'ai pas l'impression que le discours était aussi avenant vis-à-vis des retraités il y a 5 ans quand il est arrivé.
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on observe depuis.
Oui, de manière générale, en effet.
Non, c'est pas vrai. Les jeunes votent massivement pour plutôt.
Oui, mais Emmanuel Macron n'a pas forcément les mêmes intentions vis-à-vis des retraités il y a 5 ans.
Non, mais il a eu 11 points de plus aux dernières élections.
Non, mais je trouve ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on voit quand même que de plus en plus, les retraités par rapport aux actifs. Bon, les actifs, évidemment, payent la réforme des retraités, et pourquoi pas, qui leur bénéficient. Si, on voit bien quand même que ce sont eux aujourd'hui qui ont la majeure partie de l'épargne, la majeure partie du patrimoine, des revenus d'activité qui finalement sont sensiblement, enfin parfois même un peu supérieurs. Donc ça pose aussi. Dit différemment, est-ce que le jeune d'aujourd'hui, qui a 20-25 ans, se dit qu'avec cette réforme-là, il se sent en capacité d'une certitude face à sa retraite à lui?
Un tiers des recettes de cette réforme qui vont être redistribuées aux retraités, finalement. C'est ça l'histoire.
Non mais juste, pardon, sur le sujet des femmes, Guillaume, parce que vous me disiez, Jean-Baptiste, que cette mesure, elle bénéficie aussi aux femmes, mais en réalité, pas vraiment, parce que enfin, on sait que les pensions moyennes de droit direct perçues par les femmes, elles sont inférieures de 40% à celles perçues par les hommes, donc c'est absolument énorme. C'est évidemment en lien avec les inégalités de salaire. Donc là, en fait, ce qu'on propose, mais vous allez me dire si je me trompe, Bruno, c'est que les femmes qui auront bénéficié d'un congé parental et donc élevé leurs enfants, elles pourront intégrer jusqu'à un maximum de 4 trimestres de leur calcul. Mais c'est une mesurette.
Je vous laisse le mot, mais le point, c'est que, et oui.
Mais je le garde.
Mais tout l'important des mesures sucrées, c'est tout est dans le narratif du décret. Hein, tout est dans le détail. Les décrets, on écrit nonobstant, c'est le seul endroit au monde où on écrit encore nonobstant, dans la limite de.
Oui, c'est la poésie française.
Avoir pour effet de. Et donc, du coup, les mesures sucrées, on les chiffrera plus tard. D'autant qu'en plus, comme on repousse l'âge de la retraite, le sucre se repousse aussi. Typiquement, le cumul emploi-retraite, c'est pour plus tard. Hein, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la décote aussi, ça baisse. Après, les femmes, il y a toujours aussi cette difficulté de regarder la moyenne. Et puis l'état des générations actuelles par rapport à leur taux d'activité, leur profil d'activité, leur revenu qui n'est pas tout à fait égal à la moyenne. Et puis si on voulait être dans un calcul d'assureur privé pur, qu'est-ce qu'on dirait? On dirait elles vivent plus longtemps, elles ont plus souvent une pension de réversion.
Oui, non, mais manière générale, les carrières hachées, elles restent un peu le trou dans la raquette de cette réforme.
Non mais les carrières, j'ai dit tout à l'heure, le point de cette réforme, c'est l'augmentation du nombre de trimestres. Le cas typique, c'est les carrières longues. On vous dit 60 ans avec 44 ans de cotisation. Ça veut dire avoir commencé avant 16 ans sans avoir jamais un trimestre manquant. Et ça, il n'y a plus personne. Plus personne ne commence avant 16 ans. Donc du coup, vous mettez une mesure sucrée qui ne concerne personne. Donc effectivement, elle coûte pas cher. Et donc il faut toutes les rebalayer à la lumière de la cible et non pas à la lumière de la moyenne de ce qui s'est passé ces 10 dernières années, ce qui est typiquement l'exemple des femmes. Hein, donc moi je serais très prudent sur les mesures sucrées. J'observe que quand même c'est aussi une redistribution, c'est-à-dire que dans les économies
qui sont faites sur les pensions sont redistribuées sur les petites pensions, ce qui diminue le caractère assurantiel et contributif du système au profit, une fois de plus, de la redistribution.
Jean-Baptiste Debary.
Ce qui est sûr, c'est que sur les femmes et les carrières heurtées d'une manière générale, la réforme précédente, celle de Macron historique 2017, était certainement beaucoup plus ambitieuse.
Absolument.
Et beaucoup plus intéressante. Donc, il y aura certainement, au XXIe siècle, une réforme systémique et il sera peut-être temps, effectivement, de...
Question.
C'est dommage quand même que finalement Emmanuel Macron et Édouard Philippe aient reculé devant l'obstacle. Alors clairement,
oui, mais c'était le Covid.
Clairement, ce qui met ce bazar, c'est cette introduction de l'âge
reculé sur l'âge pivot, 64
ans, venue de nulle part au milieu de cette réforme systémique. Oui. Et c'est ça qui a quand même créé la difficulté. Et après, ça a été un arbitrage. Je pense que cette mesure, elle a été créée parce qu'à un moment, il y a eu une vraie peur.
Parce qu'il y a un rapport du corps. Elle est venue cette mesure parce qu'il y a un rapport du corps qui a, pour le coup, prédit l'instabilité budgétaire du régime. Et donc cette mesure a été introduite comme étant.
Oui. Et puis il y a eu aussi, je pense, une peur d'aller vraiment de basculer dans une réforme vraiment très très nouvelle. Hein. Je crois qu'il y a un fameux dîner à l'Élysée où il y a à peu près 10 personnes. Ouais. Et donc finalement ça se termine. Vous savez, un peu comme les votes de la Cour suprême. C'est ça. C'est, en gros, ça s'est terminé à 6-4. En faveur finalement de l'âge pivot et je crois que finalement il y avait dans les gens qui étaient favorables à l'âge pivot, il y avait Édouard Philippe, il y avait Emmanuel Macron et puis dans les gens qui étaient farouchement contre.
Alors Emmanuel Macron était contre.
Il s'est justement échauffé avec Édouard Philippe en faveur des 64 ans. Alors que c'était Ferrand et François Bayrou qui étaient eux farouchement contre. Je me trompe, Jean-Baptiste?
Voilà. Est-ce que vous corrigez?
J'étais pas au dîner.
Quand vous étiez, vous, Jean-Baptiste?
Moi j'étais pas au dîner là.
Moult fois.
Mais ce que je sais, c'est que le président, pour le coup, était assez attaché au caractère systémique de la réforme.
Ouais.
Après, les chiffres se sont dégradés et il a assumé la mesure d'âge et donc l'âge pivot.
Mais c'est paradoxal parce que là, on est au bord de supprimer l'âge. Le critère va être beaucoup moins mordant pour toutes les prises de retraite. Et donc,
de toute façon, c'est l'âge effectif qu'il faut regarder.
Oui, mais si on cherche un moyen d'aller vers la gauche, allez, c'est ça aussi.
Ouais.
Allez, 18h46, on marque une petite pause et puis on se retrouve dans une grosse minute. On a encore pas mal de choses à voir ensemble.
L'économie française.
Oui, on parlera de l'économie française qui continue de résister. C'est une bonne nouvelle que nous a donné la Banque de France. Et puis alors, ce taux d'usure, vous savez, qui empoisonne bien des Français qui cherchent à créer un crédit IMO. Vous savez qu'il est renouvelé tous les 3 mois. C'est pas assez réactif. Ouais. Donc il y avait une réunion pour voir si on pouvait pas mensualiser tout ça pendant un certain temps. Ça va soulager pas mal de Français et peut-être les banques.
Et les banques, oui.
Ouais.
À tout de suite.
Good evening business, le débat.
Allez, 18h49, dernière partie du débat avec Audrey Tcherkov, avec Jean-Baptiste Djebari, avec Emmanuel Lechypre, avec Bruno Coquet. Bon, bonne nouvelle que nous a donnée la Banque de France qui nous dit qu'au quatrième trimestre 2022, on a fait une petite croissance de 0,1%, croissance quasi stable attendue sur janvier. Donc, la résilience se confirme, a dit ce matin le président de la Banque de France. Quand j'ai dit ça, Emmanuel Lechypre, ce matin, il m'a dit « Ah bah vous voyez ?»
J'ai raison, parce que c'est ce que vous nous dites depuis 6 mois. Non.
Ça valide ce que je dis depuis des lustres et des lustres. Non, mais c'est pas.
Oui, ça confirme. Enfin, pour le moment, le scénario qui est notre scénario privilégié ici, c'est ce scénario de plutôt bonne résistance de la croissance et de recul marqué de l'inflation. Voilà. Et pour le moment, effectivement, enquête après enquête, eh bien, ce scénario n'est pas démenti.
Bon, Bruno, d'accord avec ça, vous?
Non. Namo. Moi, je suis des grincheux, moi. Moi, ce que je dis, c'est les modèles de prévision sont étalonnés sur des données qui sont aujourd'hui à peu près postérieures aux années 2000. Enfin, les années 2000 incluses. Donc, ils sont étalonnés sur une période où on a intégrer de la déflation dans toutes les chaînes de valeur, de la déflation importée essentiellement. Donc on ne sait pas comment se transmettent les chocs inflationnistes dans l'économie. Donc il y a un risque non négligeable que les équations ne retracent pas ça. Donc, et en plus, même si j'y connais rien au modèle, supposons ça, le point c'est que c'est la boîte de Pandore, l'inflation. On voit bien que quand vous avez une inflation de 1%, il y a quelqu'un qui augmente ses prix de 2%, tout de suite il est cloué au pilori. Si on est à 10 et qu'on augmente de 12, bon, personne ne le voit. Donc, du coup, l'inflation.
Bruno, c'est plus possible. Dans un monde concurrentiel, c'est impossible. Tu vois bien que tout ce qui fait les germes inflationnistes aujourd'hui sont en train de disparaître.
Mais le monde n'est pas concurrentiel. Il a commencé par la grande distribution. Et donc, du coup, il faut bien voir que, moi, je dis pas ça va augmenter. Je dis juste, il y a une énorme incertitude. Et cette incertitude, quand tu regardes la confiance des ménages, les enquêtes de conjoncture auprès des ménages et des entreprises, auprès des ménages, on est au plus bas.
Oui, hein, mais alors en revanche, auprès des entreprises, non.
Auprès des entreprises, ça dépend. Mais on est plutôt...
Les entreprises résistent.
Je rajoute une troisième
chose. Jean-Baptiste Djebbari.
Je pense qu'à court terme, c'est vrai que l'inflation est... En fait, le sous-jacent de l'inflation, là, actuellement, c'est l'énergie. On retrouve des prix du gaz et l'élec d'avant la crise de l'Ukraine. Le prix des conteneurs a baissé. Donc, on voit bien que ça, probablement qu'au printemps, on va retrouver...
Toutes les matières premières baissent.
Et ça, c'est juste. En revanche, le monde, pour le coup, depuis 2020, a réellement changé. On est dans un monde d'énergie... En tout cas, le monde occidental, d'énergie fossile pas chère, avec de la main-d'œuvre qu'on allait plutôt chercher à l'extérieur, inflation importée, et on s'occupait globalement plutôt du consommateur et on laissait la belle part aux distributeurs. Là, on passe dans un monde d'énergie verte, ça va coûter évidemment une fortune, mais il faut le faire. On s'intéresse quand même beaucoup plus aux producteurs qu'avant. Et par ailleurs, on réindustrialise, on relocalise et ça va nous coûter, nous, beaucoup plus cher en Europe et singulièrement en France. Donc l'inflation, pour le coup, de long terme, pour des bonnes raisons, elle est là, à mon avis, et pour longtemps. Et ça, il faudrait plutôt l'anticiper.
Oui, non, mais moi, ce que je voulais rajouter aussi, c'est que j'ai regardé la dernière étude Manpower qui dit que 41% des entreprises souhaitent embaucher. De l'autre côté, on a l'INSEE qui nous dit aussi que l'emploi et l'investissement ne reculent pas. Donc, on a vraiment une dynamique entrepreneuriale qui tient, à mon sens. La seule inquiétude qu'on ait, c'est que justement, la BCE ne voit pas que l'inflation baisse et continue d'augmenter ses taux.
Et oui. Oui, et donc du coup, ça s'ajoute, je pense, au contexte, c'est-à-dire ça renforce les problèmes des finances publiques, etc. Et d'ailleurs, si ça va si bien, pourquoi le déficit public est-il à 5 points de PIB, à plus de 5 points de PIB? Ça, on ne comprend pas très bien, il n'y a pas besoin de
parce
soutenir
qu'on fait
les
chèques.
Oui, mais
Parce qu'on veut soutenir un peu artificiellement.
Non, mais bien sûr,
la croissance,
donc du coup, ça ne va pas bien.
Les Français consomment des produits finis en Asie.
Je suis d'accord, mais
ça va bien de manière artificielle, c'est ce que vous voulez dire, en fait.
Donc ça marche, si dans le même temps, on fait ça, ça. Évidemment, c'est pour tenir, entre guillemets, la société et s'assurer qu'effectivement, l'inflation n'ait pas trop d'impact. Ça marche et en même temps, on relocalise et on réindustrialise vraiment et qu'on se recrée des poumons de prospérité en France et en Europe. À ces conditions-là, cette décennie, elle peut être gagnante pour la France et pour l'Europe. Manuel. Sinon, on aura du...
Non, je partage certaines interrogations de Bruno sur les modèles. Alors, il se trouve que là, le travail que publie la Banque de France aujourd'hui, c'est un travail vraiment trimestriel, etc. Donc, c'est pas... je vois bien ce que veut dire Bruno sur les modèles, etc. Et je partage totalement son avis sur les modèles de prévision du FMI, de la Banque mondiale, des grandes organisations internationales, où, en fait, vous êtes basé sur des données déjà d'il y a 6 mois, et où, en fait, vous raisonnez avec les vieux mécanismes. Et je pense que c'est vrai. Moi, c'est pas tellement sur l'inflation que pour moi, ça, les liens ne marchent plus. C'est sur l'emploi. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, les modèles qu'on a qui nous disent, ah bah, parce qu'il y aura moins de croissance un petit peu en 2023, il y aura, le chômage va remonter. Ça, par exemple, moi, je n'y crois pas. Et moi, le scepticisme que j'ai sur la mécanique des modèles, je l'ai plus sur l'emploi que sur l'inflation.
On a trois minutes. Je vois qu'on écoute le gouverneur de la Banque de France. Il y avait une réunion aujourd'hui, vous savez, hein, au sujet du fameux taux d'usure. Hein, vous savez, ce taux au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter, parce qu'aujourd'hui il est révisé tous les 3 mois, certains disent c'est pas assez réactif, sauf qu'il y avait une réunion aujourd'hui pour essayer de faire en sorte qu'on mensualise l'évolution de ce taux d'usure, sauf que le gouverneur de la Banque de France a l'air de considérer encore que les taux remontent pas très très vite, en tout cas pas autant qu'au niveau européen. Écoutez François Villeroy de Gallo.
C'est quand même une remontée qui est très progressive, très ordonnée. Je vous donne 2 repères. Le premier, c'est que si on se compare à nos voisins européens, c'est nettement inférieur. La moyenne européenne est plutôt proche de 3%. Et les Allemands sont à 3,6%. Donc, vous voyez, le taux du crédit immobilier est en France le moins cher d'Europe. Et l'autre repère, parce qu'on a un peu oublié ça, c'est quand on regarde par rapport à la moyenne historique, les 20 dernières années, sur 20 ans, la moyenne des taux du crédit immobilier, c'est 3%. Donc, vous voyez, 2%, ça reste relativement favorable.
Oui, sauf que les banques prêtent plus, de moins en moins depuis quelques mois.
Alors en effet, mais c'est vrai que la Banque de France, elle dit beaucoup de choses. Elle dit notamment que les banques ont continué à servir tous les emprunteurs de toutes les classes d'âge, de tous les revenus, et ce, pour tout motif d'acquisition, alors que c'est faux, puisque précisément l'Observatoire Crédit Logement nous dit l'inverse, et même qu'il y a un recul de 40% de production de crédit immobilier. Donc évidemment qu'on peut regretter que ce taux d'usure ne soit pas revu tous les mois.
Les Français n'y arrivent plus, quoi, très clairement.
Non mais c'est quand même incroyable. C'est-à-dire au moment où vous êtes sur la nanoseconde... sur les marchés financiers. Là, vous pouvez pas réviser un taux à un horizon inférieur à 3 mois. C'est-à-dire que j'ai envie de dire, mais attendez, ce taux d'usure, ça devrait être une formule automatique qui s'ajuste toutes les semaines et que
c'est pour éviter l'emballement des crédits, l'endettement et tout y quanti.
Oui, mais je veux dire, si vous avez un plafond, vous l'avez tout le temps. Alors peut-être que toutes les semaines, c'est pas la bonne visibilité peut-être, mais alors au moins tous les mois,
les taux d'emprunt,
on puisse le réviser assez vite, parce que franchement là, quand on voit le nombre de, l'impact sur le marché de l'immobilier, il est extrêmement concret.
C'est terrible.
C'est-à-dire qu'on risque une asphyxie du marché de l'immobilier parce qu'il y a plus de distribution de crédit aujourd'hui.
Non, je partage et puis on parlait en antenne de la pierre. On disait quand l'immobilier va, tout va, quand la pierre va, tout va en France. Et c'est vrai que c'est tellement important qu'on peut penser quand même que s'ajuster au mois le mois, ça paraît pas tout à fait hors de portée en France.
Ça exclut des ménages de moins en moins précaires de l'accès au crédit immobilier aujourd'hui, tout ça, finalement. C'est ça le résultat,
Bruno? Ça plafonne. Je suis pas tout à fait d'accord avec Emmanuel quand même, parce que les promesses de vente, ça dure un mois. Donc comment ça se passe quand si le taux évolue dans le mois en question et puis après, moi j'aime bien les règles symétriques, c'est-à-dire quand si les taux redescendent, ce qu'on espère, comment ça va se passer, c'est-à-dire
est-ce que
vous aurez conclu un mois avec la banque une fois que votre promesse de vente est réalisée,
c'est-à-dire qu'inversement il y a des dossiers qui passaient, qui passent plus ou qui passaient pas, et qui
commencent à indexer, ça soulève, alors c'est un truc de techno, je n'y comprends rien, mais quelque part je suis surpris par rapport aux promesses de vente sur un mois. Voilà.
Bien.
Non, mais qui sait, peut-être que l'objectif de la Banque de France, c'est de favoriser les acheteurs qui n'ont pas besoin d'emprunter.
Exactement. Et d'éviter l'emballement.
On est dans le modèle de l'économie de vieux que Jean-Baptiste. C'est-à-dire que qui a les moyens aujourd'hui de ne pas emprunter?
Personne.
C'est des gens qui sont déjà propriétaires et qui peuvent finalement financer leur nouvelle acquisition. Bon. Donc si vous voulez déjà... on va pas se lancer dans une...
Non.
Cette génération qui quand même a tout eu et gratuitement. Parce que c'est quand même une génération qui est devenue propriétaire. La génération des grands seniors, c'est une génération qui est devenue propriétaire pour rien.
Ouais.
Parce que leur crédit a été payé par l'inflation. C'est une génération qui n'a pas payé sa retraite, puisqu'au moment où elle cotisait pour la retraite, il y avait beaucoup d'actifs et très peu de retraités, et qui bénéficie aujourd'hui d'une retraite substantielle. Donc, et vu la flambée des prix de l'immobilier, c'est un transfert de richesse colossal. On profite de cette génération. Donc, voilà.
Allez, ça sera le mot de la fin.
Emmanuel 2027.
Voilà, change de nom, mais pas de prénom. Tout y est, là.
D'accord.
Ouais. C'est sur cette note souriante que s'achève ce débat ce soir encore. Merci, messieurs, d'être venus ce soir. Merci beaucoup, Jean-Baptiste Gébert.
Merci.
Merci. Ancien ministre des Transports, président d'Opium dans les voitures à hydrogène, bien sûr. Bruno Coquet, merci, Bruno. Docteur en économie, expert associé à l'OFCE. Merci, Emmanuel. À demain avec grand plaisir. 18h58, on marque une petite pause, nous, puis on revient.
En effet, pour notre deuxième invité, je voulais s'annoncer, Guillaume.
C'est Michel Bogas, un négociateur de Force ouvrière pour les retraites, qui sera avec nous dans un quart d'heure pour nous demander si il y a, pourquoi pas, rêvons un peu, une mesure, un renoncement du gouvernement à part l'âge de départ qui pourrait faire renoncer Force ouvrière aux grèves et manifestations. Sans doute un petit peu, mais on verra ça dans un instant.
À tout de suite.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie. BFM Business présente...
Maintenant, la vraie question, c'est de mesurer l'ampleur du retournement.
On est dans une situation économique qui est plutôt favorable. On n'ose pas le dire, parce que si jamais on dit ça, on passe pour
un fou. On n'est d'accord sur rien avec ce que je viens d'entendre.
Ça tombe bien. On veut du débat.
Guillaume Paul, Audrey Tcherkov. Good evening business.
Allez, 19h01, c'est reparti. La deuxième heure de Good evening business, tous les soirs, bien sûr, en direct avec Audrey Tcherkov. Rebonsoir, Audrey.
Bonsoir, Guillaume, et rebonsoir à tous.
Et donc, sans surprise, on continue de vous parler de cette réforme des retraites ce soir, bien évidemment, parce que on est en train de se rendre compte qu'à vouloir amadouer absolument l'opinion, les syndicats, l'opposition, le gouvernement lâche des milliards et est peut-être en train de dilapider une bonne partie des recettes qu'il espérait tirer de cette réforme. On en parlera notamment dans un quart d'heure avec Michel Bogas, c'est le négociateur de Force ouvrière sur ce fameux dossier des retraites, évidemment.
Et nous parlerons aussi de ce fameux taux d'usure. C'est ce taux plafond au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. Donc il y a une réflexion en ce moment pour faire en sorte qu'il puisse être réévalué tous les mois et non tous les 3 mois, comme c'est le cas actuellement, ce qui arrangerait évidemment les banques et surtout les emprunteurs.
Et puis on parlera de ce qui se passe chez le LVMH, parce que la succession de Bernard Arnault s'intensifie. Vous vous rappelez, il y a un mois, c'est le fils Antoine qui prenait la tête de la holding familiale. Là, c'est sa fille Delphine qui prend la tête de Christian Dior. On en parlera avec un spécialiste du secteur du luxe dans un instant.
Et le dernier rendez-vous ce soir, c'est 19h30, Edwige Chevrillon qui reçoit Roland Lescure.
Tout ça plus bien autre chose, on est ensemble jusqu'à 20h.
À tout de suite.
Good evening business, le journal.
Donc le message d'Emmanuel Macron a été très ferme ce matin au Conseil des ministres. La réforme des retraites est indispensable, vitale pour préserver le système qu'il veut, répète-t-il, équilibré en 2030. Sauf que plus les heures passent, plus on est en train de se rendre compte qu'équilibrer le système en 2030, ça sera vraiment très très difficile. C'est ce que nous expliquait Thomas Asportas tout à l'heure. Écoutez.
D'après les prévisions présentées hier par le gouvernement dans le cadre de cette réforme des retraites, eh bien, il n'y aurait en 2030 qu'un excédent de 300 millions d'euros. Ouf. 300 millions d'euros à l'échelle d'un système de retraite qui pèse 340 milliards d'euros de dépenses par an. C'est vraiment l'épaisseur du trait, pour reprendre la formule des opposants à la réforme. Et si vous regardez dans le détail, vous avez effectivement un déficit de 13,4 milliards d'euros en 2030, c'est rien fait. Face à ce déficit, vous avez des recettes supplémentaires de 17,7 milliards milliards grâce à la réforme. Donc ça nous fait à ce stade un excédent de 4,3 milliards. Sauf qu'il faut rajouter le coût des mesures d'accompagnement présentées hier, qui coûte au total 4,8 milliards. Donc on rebascule dans le rouge à hauteur de 500 millions d'euros. Et pour combler ce petit déficit, eh bien, l'exécutif fait un tour de passe-passe budgétaire à hauteur de 800 millions d'euros entre les cotisations vieillesse et accidents, maladies et de travail des entreprises. Donc on voit bien que le gouvernement est déjà quand même un petit peu en train de bricoler en jouant avec les cotisations des entreprises.
Et là, on est déjà ric-rac, Thomas, pardon de le dire comme ça, alors que l'examen du texte n'a même pas commencé à l'Assemblée, c'est ça?
Voilà, et on sait déjà que la facture va s'alourdir d'un milliard d'euros supplémentaires, puisque la retraite minimum à 85% du SMIC va finalement concerner tous les retraités. Et puis surtout, il y a deux chiffres qui interpellent. Le premier, c'est que le COR prévoit en 2035 un déficit non plus de 13,4 milliards, mais de 21,2 milliards d'euros. Et donc les nouvelles recettes liées à la réforme ne suffisent pas. Et puis l'autre chiffre, c'est que toutes les prévisions du COR reposent sur un taux de chômage à long terme de 4,5%. Alors qu'aujourd'hui, on est à 7,3%. Et rien, enfin personne aujourd'hui n'est en mesure de dire si le chômage va descendre aussi bas. Et ce qui est sûr, en revanche, c'est que si le taux de chômage reste autour de 7% en 2030, eh bien le déficit avant la réforme ne serait plus de 13 milliards, mais de 20 milliards d'euros en 2030. Et donc la réforme, là aussi, ne suffirait pas à combler le déficit.
Voilà, équilibre rétabli en 2030. Ça sera très, très difficile. Thomas Asportas, tout à l'heure avec nous sur BFM Business. Des choses qui ne vont pas, on continue à en découvrir heure après heure. Vous en avez découvert une qui vous choque un peu, Audrey, apparemment.
Oui, Guillaume, en fait, contrairement à ce que Elisabeth Borne a dit, non, la réforme des retraites ne sera pas plus juste pour les femmes. Ce qu'on donne aux femmes, c'est qu'elles pourront intégrer jusqu'à un maximum de 4 trimestres dans leur calcul en fonction de leur congé parental, mais en réalité, ça reste vraiment une mesurette. Et par ailleurs, la décote pèse surtout pour les femmes. Donc, non, rien n'est proposé aujourd'hui pour réduire les inégalités de pension entre les femmes et les hommes.
Voilà, pour ce dossier des retraites, on y arrive bien sûr dans 10 minutes après avec Michel Bogas, le négociateur de Force Ouvrière. Et puis la grande question, c'est désormais de savoir ce que vont faire les Républicains. Vont-ils voter le texte ou vont-ils demander de nouvelles contreparties? Écoutez ce que nous disait la députée de l'Orne LR, Véronique Louwagie, tout à l'heure sur BFM Business. Elle voit déjà des choses assez encourageantes dans ce qui a été annoncé hier.
Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut une réforme des retraites, que celle-ci est urgente. Que nous sommes attachés au système de retraite par répartition et qu'il faut intégrer effectivement la durée de cotisation, que seul le relèvement de l'âge limite de retraite, de l'âge de départ à la retraite, n'est pas suffisant. Voilà. Après, il y aura des ajustements. Est-ce que cette durée de 44 ans, puisque finalement c'est cela qui revient, pour être un petit peu plus précis, et la durée qu'il faille retenir, est-ce que ça n'est pas 43 ans? Je crois qu'il y a des ajustements.
Voilà, Véronique Louwagie, vice-présidente LR de la Commission des Finances à l'Assemblée, avec nous tout à l'heure sur BFM Business. 19h07, est-ce que les choses pourraient bientôt s'arranger pour celles et ceux qui cherchent un crédit IMO? Il y avait une réunion aujourd'hui pour éventuellement réviser tous les mois, et non plus tous les 3 mois, le fameux taux d'usure. Vous savez, ce taux au-delà duquel les banques ne peuvent pas prêter. C'est le niveau de ce taux qui handicape le marché et qui cause de gros soucis aux banques apparemment aujourd'hui. Marie-Cœur de Roy.
C'est la Banque de France qui a toujours eu les cartes en main et cette fois, elle va sans doute les abattre. À la clé, une réévaluation mensuelle du taux d'usure. Ce taux maximal auquel les banques sont autorisées à prêter n'est aujourd'hui revu que tous les 3 mois. Un rythme trop lent pour leur permettre d'adapter leur politique tarifaire à la hausse de leurs propres coûts. Les banques étant de plus en plus nombreuses à préférer ne plus prêter du tout plutôt que de le faire à perte, la Banque de France est désormais prête à agir. Il s'agira d'une mesure d'urgence. Il ne faudrait pas attendre avril, nous dit d'ailleurs un courtier convaincu que cette décision permettra de débloquer le marché. On parle pour l'instant d'une entrée en vigueur pour mars et pour une période limitée. Un semestre renouvelable serait l'idéal, nous dit-on, car il faudra aussi observer les effets de cette mesure. Les taux n'augmenteront pas nécessairement plus fort qu'avec le système actuel, mais forcément beaucoup plus vite. On parle déjà de 3,5 voire 4% en moyenne dès le printemps.
Voilà, il faut peut-être être plus réactif parce que les chiffres le montrent, Audrey, les banques prêtent beaucoup moins depuis quelques mois, très clairement.
Oui, absolument. Clairement, depuis la remontée des taux du crédit immobilier, le taux d'usure est vraiment devenu le cauchemar des courtiers et du marché de l'immobilier parce qu'il bloque complètement les octrois de crédit immobilier. C'est l'Observatoire Crédit Logement qui le montre avec un recul de la production de crédit immobilier de 40%, notamment en août et en septembre dernier, c'est énorme.
Voilà pour ce fameux taux d'usure. Aux États-Unis, c'est rarissime, mais le trafic aérien a été totalement interrompu aujourd'hui pendant quelques heures à cause d'une panne de système de l'administration fédérale de l'aviation. Tous les vols au départ du pays ont été cloués au sol. Le trafic a repris, mais on ne connaît pas encore les causes réelles de ces dysfonctionnements. Et puis, je vous le disais, du changement encore à la tête d'LVMH avec la succession de Bernard Arnault qui s'accélère. Il y a au moins, on s'en souvient, c'est Antoine, son fils aîné, qui avait pris la tête de la holding familiale. Là, c'est sa fille Delphine qui prend la tête de Christian Dior, ça s'accélère. On va en parler quelques instants avec Arnaud Cadart qui est avec nous au téléphone, gérant de portefeuille chez Flornoy. Bonsoir Arnaud Cadart, merci d'être avec nous ce soir. Bonsoir. Sur BFM Business. Est-ce que vous voyez vraiment une nouvelle étape dans la passation de pouvoir entre Bernard Arnault et ses descendants finalement? Comment est-ce que vous regardez ce nouveau mouvement, vous?
Oui, il y a plusieurs dimensions à ces nominations qui ont eu lieu aujourd'hui. D'abord, il y a un besoin évident de renouvellement du comité exécutif au plus haut niveau de LVMH parce qu'il y a plus de 50% du COMEX qui a plus de 65 ans. Donc, c'est un COMEX qui est constitué largement de vieux grognards de Bernard Arnault et il faut assurer une transition progressivement. Donc, c'est quand même très important que ça se fasse progressivement. Il y a un autre point, c'est que c'est des nominations qui ont lieu sur des actifs de grande importance, sur des nominations de grande importance parce que ça concerne les deux plus grands actifs de LVMH, hein, Louis Vuitton et Christian Dior. Oui. C'est donc très important. Et puis il y a une prime au succès aussi puisque ce sont deux talents qui sont extraordinaires, qui ont fait un super boulot sur les 10 dernières années pour repositionner très fortement Christian Dior et Vuitton au plus haut niveau du secteur du luxe mondial. Et il y a une performance qui, depuis 10 ans, était vraiment exceptionnelle.
Ça nous laisse présager. Allez-y, Arnaud. Oui,
il y a une dernière dimension qui est intéressante aussi. C'est qu'on a deux nominations. Une nomination qui marque bien la suite de Bernard Arnault, puisque c'est Delphine, sa fille aînée. Donc, on est bien dans la transmission familiale du contrôle des opérations aussi au sein de LVMH. Mais on fait quand même, on montre qu'en face, il y a de la place pour les talents qui ne sont pas de la famille. Il n'y a pas de népotisme excessif chez LVMH. Oui. Il y a une volonté aussi de se dire, on a des talents incroyables, il faut les valoriser, il n'y a pas que les héritiers de la famille. Donc il y a une sorte d'équilibre qui est vraiment intéressant dans cette double nomination d'aujourd'hui.
Ça laisse présager un Bernard Arnault qui sera peut-être moins présent, voilà, qui va s'effacer publiquement, tout du moins dans désormais chez LVMH pour vous, Arnaud, ou pas?
C'est peut-être encore un peu tôt, je pense qu'il a encore quelques bonnes années à offrir. On est sur des nominations quand même sur des filiales du groupe. Hein. Bernard Arnault a toujours incarné l'équilibre du groupe, l'ensemble des 4 ou 5 grandes activités du groupe. Donc, il est à quand même un niveau encore au-dessus. Je pense qu'il est encore présent pour les 4 ou 5 années, mais il prépare tranquillement le terrain avec Antoine Arnault qui a été nommé il y a un mois, avec Delphine qui est là, et puis d'autres nominations très importantes chez Vuitton qui sont arrivées.
Il prépare la suite avec sérénité. Merci beaucoup Arnaud, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Arnaud Cadart, gérant de portefeuille chez Flornoy, avec nous ce soir sur BFM Business. Dans le secteur de la pharma, on reste en France. On apprend que Novartis pourrait supprimer jusqu'à 400 postes dans le cadre du plan de transformation mondiale qu'il avait lancé il y a 2 ans. C'est le groupe lui-même qui l'a annoncé aujourd'hui. Et puis, gros contrat décroché par Vinci dans l'éolien offshore. C'est l'une de ses filiales qui a été choisie pour concevoir, construire et installer en mer du Nord 2 plateformes offshore de conversion d'énergie éolienne. Tout ça au large de l'Allemagne. C'est un contrat qui s'élève à plus de 4 milliards d'euros, s'il vous plaît. Jean-Baptiste Huette.
Faire le lien entre les champs d'éoliennes en mer et les stations terrestres, c'est le rôle des plateformes de conversion. Une fois l'énergie électrique produite par les éoliennes, cette dernière est transformée dans de gigantesques plateformes offshore en courant continu haute tension, une norme qui permet de transporter l'électricité sur de longues distances sans perte. 400 km plus loin, une fois sur Terre, l'électricité est reconvertie en alternatif pour aller alimenter les foyers. Deux stations de ce type vont être construites par Cobra IS, la filiale de Vinci, et son partenaire Siemens Energy, mise en service prévue pour 2029 et 2030. Un contrat à 4 milliards d'euros qui illustre bien l'incroyable dynamisme dans les services à l'énergie. Vinci dispose déjà de Vinci Energy qui permet depuis des décennies de générer de substantiels revenus. Cobra IS, c'est le petit nouveau du groupe. Racheté il y a un peu plus d'un an pour environ 4 milliards d'euros, cette filiale spécialisée dans les grands projets énergétiques a déjà permis de rapporter plus de 5 milliards d'euros de contrats.
Voilà pour ce gros contrat décroché par Vinci, 19h13. On retourne sur les marchés tout de suite. Je vous rappelle la clôture à la Bourse de Paris ce soir. On grappille encore un petit peu de terrain pour débuter la semaine, plus 0,8%, 6924 points ce soir à la clôture. Bonsoir Sabrina, on vous retrouve depuis New York à la mi-séance. Comment ça se passe chez vous à Wall Street ?
Ça se passe plutôt bien. On est actuellement sur les plus hauts niveaux de la séance sur les trois indices américains avec un Dow Jones qui prend 0,5%, un S&P 500 qui affiche une hausse de 0,8% et le Nasdaq plus 1,3%, 10 880 points. C'est la quatrième séance de progression pour l'indice Nasdaq. On n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Des indices marché américains qui sont en hausse depuis le début de l'année. Du côté de l'actualité entreprise, c'est assez calme. On attend bien sûr les chiffres d'inflation demain, les premières publications en secteur bancaire ce vendredi. Sur le côté de l'actualité entreprise, on garde un œil sur Tesla qui va investir un peu plus de 770 millions de dollars pour agrandir son usine du Texas. Tesla qui est le top pick 2023 de Goldman Sachs et le titre en profite puisqu'on prend un petit peu plus de 2% sur ce titre Tesla, 122,25 $, dans une tendance donc positive. Ça fait du bien. En attendant les chiffres de l'inflation, l'indice Dow Jones prend 0,5%, le S&P 500 donc 0,8% et le Nasdaq en tête avec un gain d'1,3% à 10 879 points.
Merci beaucoup Sabrina. On vous retrouve toute la soirée bien sûr pour suivre la fin de cette séance sur BFM Business. 19h15, la réforme des retraites. Les syndicats qui préparent leur première journée de mobilisation dans 8 jours, le 19. Michel Bogas, secrétaire confédéral Force Ouvrière.
Good evening business. Ils font l'écho.
19h19, notre deuxième invité ce soir sur Good Evening Business, c'est Michel Bogas, secrétaire général confédéral de Force Ouvrière. Bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir,
monsieur Bogas.
Merci d'être sur ce plateau. Alors, on a vu la photo, hein, une fois n'est pas coutume. Les 9 secrétaires généraux et présidents de tous les syndicats français étaient réunis hier soir pour lancer d'une seule et même voix un appel à la grève et aux mobilisations. Donc, ça aura lieu le 19 janvier prochain. Est-ce qu'il y aurait un geste de la part du gouvernement, hormis le décalage de départ à la retraite, qui pourrait vous faire changer d'avis?
Bah écoutez, aujourd'hui, non. Il me semble que la principale polémique et le principal fait que l'ensemble des organisations syndicales sont opposées à cette réforme, c'est bien le recul de l'âge de départ à la retraite, mais pas que. C'est aussi, l'allongement de la durée de cotisation par l'accélération de la réforme dite Touraine, qui prévoit 43 ans de cotisation en 2035, qui sera avancée à 2027.
Et aucune contrepartie donc qui pourrait vous faire reculer, vous le dites.
Non,
mis à part cela, si on sanctuarise ce recul de l'âge de départ légal.
Il y a eu des concertations.
Ce
ne sont pas des contreparties. Ce sont des mesurettes. Voilà, on a rectifié quelques erreurs du passé, comme pour les travaux d'utilité collective, les fameux TUC qui ne cotisaient pas, qui ont pu travailler pendant 3 ans, qui n'avaient pas de cotisation et qui ne pourraient pas être en carrière longue. Comme on répare une injustice en prenant les congés maternité, les congés parentaux dans les trimestres. Mais ça ne fait pas... Enfin, ça fait pas un contrebalancier, ça peut pas être le corollaire, en fait, à un départ plus tardif à la retraite.
Est-ce que vous considérez encore aujourd'hui, est-ce que vous continuez de considérer que cette réforme n'a pas lieu d'être puisque la situation financière du système de retraite n'est pas en danger?
Effectivement.
Voilà. Vous le dites aujourd'hui.
Nous le redisons et nous avons une lecture opposée.
Pouvez-vous nous le démontrer? Voilà.
Nous avons une lecture opposée au gouvernement sur le fameux rapport du Conseil d'orientation des retraites.
Ouais.
En fait, ce sont des projections. Le corps.
Sur la base des hypothèses du gouvernement.
Sur la base des hypothèses du gouvernement. Ah ouais. Et j'y reviendrai. Mais le corps dit que jusqu'en 2037, il y aurait effectivement un déficit. Sauf que il le disait déjà pour 2021 et 2022. Or, le système de retraite en 2021 et 2022 est excédentaire. Donc, déjà, on peut considérer que ce ne sont que des projections et des hypothèses.
Ça, c'est du rattrapage post-Covid, voilà. On le sait, monsieur Bogas.
Et l'autre fait, c'est que le gouvernement a souhaité que le corps fasse la base de ses projections sur un taux de chômage à 5%, qui crée un artefact, voilà, et... Après 2026, le corps a repris un taux de chômage à 7%. Ça veut dire que moins de cotisations et donc on crée artificiellement un déficit. Le déficit a été créé artificiellement dans les projections par les chiffres donnés par le gouvernement. On pourrait, si on était de mauvaise foi, parfois on l'est, soupçonner le gouvernement d'avoir créé un déficit artificiel pour pouvoir faire passer sa réforme.
Alors précisément, pour ne pas être de mauvaise foi, parce qu'on n'aime pas ça sur ce plateau, il faut aussi préciser qu'en fait, dans les rapports du corps, il y a à la fois des centaines de pages, avec des centaines de calculs et des centaines d'hypothèses. Et qu'en réalité, la seule mesure viable, c'est la démographie. Quand on regarde les chiffres de l'INSEE, on voit que le nombre de personnes entre 20 et 64 ans, entre aujourd'hui et 2040, reste stable. Donc c'est 37,5 millions de personnes. Or, le nombre de personnes âgées de plus de 65 ans, lui, augmente de 33%. Comment est-ce qu'on finance ces 5 millions de personnes en plus si on ne décale pas l'âge de départ à la retraite ?
Eh bien, on le finance autrement, peut-être par une augmentation des cotisations des entreprises et des salariés, pourquoi pas ?
Alors c'est là, pas, c'est une rupture c'est pas, du
c'est pas
pacte,
un tabou
pacte
pour
social.
Les organisations syndicales, ça l'est pour le gouvernement. Mais ça ne l'est pas, on pourrait aussi, par exemple, augmenter le taux d'emploi des seniors entre 55 et 64 ans.
Oui.
Voilà, et ça, ça fait partie des propositions des organisations syndicales. Parce qu'on augmente, un, la part de richesse dans le produit intérieur brut, deux, on augmente les cotisations. Et donc, plus de cotisations égale justement plus de moyens pour payer ces fameuses retraites.
Alors,
et puis, malheureusement, ce qu'il faut prendre en compte, c'est bien l'espérance de vie en bonne santé. Et là, c'est 62 ans et demi, c'est pas 65 ans. Ça veut dire que on pourrait, avec la réforme, arriver en fait en retraite malade et ne pas en profiter.
D'accord, je vous entends sur ce point. Mais donc, vous vous dites qu'augmentation des cotisations dans un contexte inflationniste qui est le nôtre, dans un contexte où le pouvoir d'achat, c'est la première préoccupation des Français, vous dites que c'est la bonne solution.
Ben, c'est un choix de société. Est-ce que, quand on a travaillé toute sa vie, on souhaite avoir une retraite avec une bonne pension et pouvoir
vivre dignement. Non, mais j'entends bien, mais si on ne peut pas boucler, c'est voilà, mais ça, c'est aujourd'hui.
Mais les entreprises, de toute façon, enfin, on peut prendre... Soit. Mais si on prend les entreprises du CAC 40, pourquoi on n'a pas créé, par exemple, une taxe sur les super profits, ne serait-ce que pour une fois ou deux, quand il y a des super profits, pour les mettre.
Parce que vous récoltez pas autant de milliards de dollars.
Pour les mettre, dans les caisses des retraites. Ça veut dire, après, c'est le choix de société. Comment on prend, comment on fait la cotisation. En plus, nous avons un système par répartition qui est un des meilleurs. Je rappelle quand même que le système de retraite français est envié par le monde entier. Et aujourd'hui, sous prétexte que ailleurs ça se fait pas comme ça, il faudrait le changer. C'est complètement injuste.
Il y a un débat qui monte en tout cas autour du fait que l'équilibre financier du régime sera pas rétabli en 2030. Et donc, la finalité de tout ça, c'est que ce sera pas la dernière des monsieur Bogas. On sait très bien, cette réforme, il y en aura d'autres.
Ce qui est prévu, c'est à peu près 10 à 12 milliards par an.
Oui.
Voilà. De déficit.
Donc vous
fait 0,5% du PIB qui fait le produit intérieur brut qui fait 2500 milliards en France. C'est peanuts. Alors que les aides aux entreprises, c'est 6,8% du PIB. Pourquoi on va pas regarder, pourquoi on conditionne pas les aides aux entreprises, par exemple au maintien des seniors en emploi, par exemple à mettre des emplois pérennes, par exemple à arrêter le temps partiel dans certains secteurs comme la grande distribution, comme le nettoyage, etc., pour que justement les femmes qui sont les plus pénalisées puissent avoir une bonne retraite.
Mais alors Michel Bogas, si on en revient à ce qui va se passer le 19 janvier prochain, on peut quand même dire que la conflictualité gréviste, elle s'est largement effondrée depuis les années 70, notamment dans ses formes les plus denses et les plus prolongée. Qu'est-ce que vous attendez réellement de cet appel à la grève ?
Nous, on attend de cet appel qu'il soit massif, et on pense qu'il sera massif. Je rappelle que l'ensemble des salariés de ce pays sont concernés. Tout le monde prend 2 ans, hein. Tout le monde. Il n'y en a pas un d'épargné, à part si, et fort heureusement, les travailleurs souffrant d'un handicap qui conservent quand même un départ anticipé à la retraite à 55 ans. Sinon, pour tous les autres, c'est 2 ans de plus. Et donc, comme tous les salariés de ce pays sont concernés, bien évidemment, il y aura les gros bastions comme RATP, SNCF, les ports, EDOC, etc. Mais il y aura aussi tous les salariés de l'industrie. Toutes les fédérations de l'industrie, par exemple comme la métallurgie, appellent à la grève. Ça veut dire que ça sera massif et Il y a deux objectifs. Un, c'est de démontrer au gouvernement que les salariés ne veulent pas de cette réforme.
Parce qu'ils ont
et c'est de montrer aussi aux oppositions qu'il faut qu'ils comptent avec la rue et que peut-être ils n'ont pas apporté une majorité au gouvernement sur cette
question. Oui, dans la rue, il n'y a pas de 49-3, ça c'est clair. Maintenant, on précise quand même, Guillaume, vous dites que c'est 2 ans de plus pour tout le monde, mais ça va mettre 8 ans à se mettre en place. Hein.
Oui, mais c'est quand même 2 ans de plus pour tout le monde.
Et on précise quand même que ce n'est pas du jour au lendemain.
Et si vous deviez partir l'an prochain à la retraite, vous ferez 3 mois de plus. Et si vous deviez partir en 2024, vous ferez 6 mois de plus. Et croyez-moi que quand vous arrivez à l'âge de la retraite, eh bien, qu'on vous l'a promis, ça fait, dans 2 ans, vous avez déjà commencé à calculer, à faire des projets pour votre départ à la retraite. Et on va vous dire, il faut faire 6 mois de plus. Eh bien ça, c'est injuste.
Dernière question, Monsieur Bogas, est-ce que vous craignez des débordements à l'image de ces collectifs qu'on a vu émerger du côté des contrôleurs, notamment à la SNCF en décembre? Est-ce que vous craignez ces mouvements un petit peu incontrôlables à l'occasion de ces manifs qui viendraient peut-être à tort, mais ternir l'image des syndicats représentatifs?
Les organisations syndicales ont quand même largement l'habitude d'organiser des manifestations. Nous avons des services d'ordre et les manifestations seront encadrées. Oui. Et s'il devait y avoir des perturbations, ça ne viendra pas des organisations syndicales, ça viendra peut-être de d'autres groupes. Et là, c'est charge à l'État, donc à la police, que de veiller au bon ordre. Mais en tout cas, pour nos organisations, il n'y aura pas de débordement.
Les syndicats, eux, seront responsables. Merci beaucoup, Michel Bogas. Merci de passer nous voir ce soir,
secrétaire
confédéral de Force Ouvrière. Merci beaucoup d'être venu sur BFM Business. 19h27, Edwige Chevrillon nous a rejoint. Elle va nous accompagner jusqu'à 20h. Bonsoir, Edwige.
Bonsoir.
Votre invité dans un instant.
Bah, l'État, dont parlait monsieur Roland Lescure, en l'occurrence, puisqu'il est ministre délégué en charge de l'industrie. On va parler de réforme des retraites, bien sûr. On va parler de l'impact des réformes des retraites sur les secteurs, l'industrie, vous l'avez mentionné, sur l'énergie. Est-ce que ça peut peser sur la croissance. Et puis on parlera quand même du coût de l'énergie avec le risque sur la relocalisation, avec la tentation quand même américaine qui se fait extrêmement forte.
Voilà pour votre invité Edwige dans un instant sur BFM Business.
BFM Business présente Edwige Chevrillon, la grande interview.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette grande interview. Aujourd'hui, mon invité, c'est Roland Lescure. Il est ministre délégué en charge de l'industrie. Bonsoir, Roland Lescure.
Bonsoir.
Merci beaucoup. En plus, vous avez un rôle politique assez fort auprès de Renaissance. Beaucoup de questions à voir avec vous. Les retraites, évidemment. Sujet numéro un, l'impact de cette mobilisation des syndicats pourrait avoir sur des secteurs, notamment sur l'énergie et notamment sur l'industrie. Est-ce que du coup ça peut créer un climat difficile peut-être pour l'industrie? Et puis on reviendra sur la relocalisation, réindustrialisation, grande ambition du gouvernement, mais on voit bien que c'est difficile. Vous avez écouté comme moi le journal de Faïza Younzi et puis l'industrie verte, le nouveau projet porté par Bruno Le Maire dont vous dépendez. D'abord sur les retraites, on voit que les Français sont hostiles, si on en croit le sondage de Elabe, hostiles mais résignés. Il y a 53% des Français qui sont prêts à se mobiliser, même s'ils estiment que cette réforme n'était pas forcément nécessaire et qu'elle est sans doute injuste. Ça vous inspire quoi?
Ça m'inspire d'abord en général. Non mais des réformes des retraites, on en a à peu près tous les 5 ans. Elles ne sont jamais populaires. Mmh. C'est jamais populaire de porter une réforme qui consiste à dire aux gens, vous allez travailler un peu plus pour équilibrer le système. Donc je ne m'attends pas à être très populaire quand je fais une réforme des retraites. Est-ce que toutes les réformes qu'on porte doivent être populaires? Non. La définition de la politique, c'est parfois de porter des réformes qui concernent l'intérêt général, même si évidemment elles ont des conséquences difficiles pour un certain nombre d'intérêts personnels particuliers. Ce qu'on a essayé de faire dans cette réforme, c'est à la fois d'être raisonnable, donc effectivement de rééquilibrer un système qui est en danger, mais en ajoutant plus de justice, plus de capacité à accompagner, et pour moi c'est très important, ministre de l'Industrie, des professions difficiles, il y en a beaucoup dans l'industrie, des gens qui ont commencé à travailler très tôt, il y en a aussi beaucoup dans l'industrie, de manière à ce que tout le monde ne soit pas traité de la même enseigne.
Mais vous-même, vous avez dit à l'instant, Roland Lescure, qu'effectivement, il y a des intérêts personnels qui peuvent être impactés par cette réforme, et notamment, c'est là où il y a beaucoup d'ouvriers qui vont être obligés de travailler plus, sans doute, 44 ans, et non pas 43 ans, comme l'avait dit Elisabeth Borne. On voit bien que est-ce qu'il y a des marges de progression? Est-ce que vous avez entendu? Parce que comme vous dites, c'est beaucoup dans des professions qui dépendent de votre ministère, qui sont impactées par cette réforme.
Alors d'abord, dans l'industrie, et pas seulement dans l'industrie d'ailleurs, il y a ce qu'on appelle les carrières longues. Carrières longues, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si vous avez commencé à travailler avant 18 ans, ou avant 20 ans, ou avant 16 ans, votre âge de départ de la retraite sera beaucoup plus tôt. Donc avant 16 ans, ce sera 58 ans. Avant 18 ans, ce sera 60 ans. Et avant 20 ans, ce sera 62 ans. Donc pour ces personnes qui ont commencé à travailler longtemps, ils partiront à la retraite plus tôt que tout le monde. Deuxième sujet très important.
Oui, mais c'est pas le point. C'est pas le point clé.
Il y en a beaucoup dans l'industrie.
Non, mais c'est important. Mais ce que je veux dire, c'est le point clé, c'est est-ce qu'ils seront obligés de travailler plus de 43 ans ?
Ben non, du coup, parce que 20
vous
ans...
Vous êtes sûr de ce que vous dites, si parce vous que partez, pour l'instant, c'est le cas. Non,
mais si vous avez commencé à travailler avant 20 ans, vous partirez à 62 ans. Donc, faites le calcul, c'est plutôt 41, 42 que 43 ou 44. Mmh. Bon. Deuxième point très important, ce qu'on appelle la pénibilité. Ça veut dire quoi ? Moi, la semaine dernière, j'étais chez UPSA, qui fait du paracétamol. Ils ont augmenté les cadences. Ils tournent 24 heures par jour, 7 jours sur 7. Donc, ils font les 3-8. Aujourd'hui, dans le système actuel, pour avoir droit à ce qu'on appelle un compte pénibilité, ce qui vous permet soit de partir plus tôt, soit de vous former, de vous reconvertir, etc., il faut travailler 150 nuits par an. Donc à peu près 5 mois. Hein. Dans le nouveau système, il faudra travailler 100 nuits par mois seulement pour avoir droit à ce compte pénibilité. Donc de manière très concrète, les gens qui travaillent chez UPSA, à Agen, qui nous fournissent du paracétamol, ils vont y gagner au passage à ce système. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va y gagner? Non, globalement, on allonge la durée de travail et on sait pourquoi, c'est pour équilibrer le système.
Ça veut dire si vous et moi, on travaille plus longtemps, c'est pas dramatique.
Ben,
en revanche, pour les ouvriers, ça peut être
normal.
Plus difficile.
Et donc, on intègre davantage les situations particulières. Chez UPSA, il y a des cadres qui travaillent dans la journée, qui font 9h, 18h. Je trouve ça normal que ces gens-là puissent travailler jusqu'à 63 puis 64 ans. Mais ceux qui travaillent la nuit, quand je vais dans une forge avec du travail de nuit, parce que pour compenser la hausse des coûts de l'énergie, toute l'entreprise s'est mise à travailler nuit, c'est normal. Dans des températures, par exemple, extrêmement chaudes, tout ça, c'est intégré dans la réforme.
Est-ce que la réforme, elle est améliorable ? Parce que là, il y a un débat budgétaire. Vous avez été député avant d'être nommé ministre dans le dernier gouvernement. Est-ce que vous vous dites cette réforme, on va l'améliorer? Il y a des points d'amélioration, notamment sur les 43 ans. Pardonnez-moi d'insister.
Je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que notre capacité collective à améliorer cette réforme, elle va dépendre beaucoup des oppositions. Moi, j'entends un groupe, la France Insoumise, qui envisage de déposer 10 000, 15 000, 20 000 amendements, 80 000 amendements, etc., etc. C'est sûr que si on doit discuter, comme c'était le cas d'ailleurs dans la réforme précédente, des dizaines de milliers d'amendements, de syntaxe, qui changent le titre du projet de loi, qui changent la virgule, qui changent le trimestre, pour faire de l'obstruction, ben on n'aura pas le temps de discuter de l'essentiel. Donc on verra. En tout cas, le gouvernement, la première ministre a dit, elle est prête évidemment à discuter de cette réforme à l'Assemblée. On respecte le débat parlementaire. Ce sera, c'est très important, ce qu'on appelle en temps législatif programmé. Donc il y a un
court,
temps pour le
20
débat.
20 jours. Si, parce que c'est justement...
Non, mais moi j'en ai vécu.
La
loi PAC, dont j'étais rapporteur général, elle est passée en temps législatif programmé. On a eu le temps d'examiner 80 articles, qui sont devenus même 150 articles dans la deuxième lecture. Non, le sujet c'est, si on passe le temps législatif programmé à discuter de l'essentiel, il y aura tout le temps pour le débat.
Vous trouvez que c'est suffisant ?
Mais c'est beaucoup, 20 jours. Voilà. C'est 4 semaines de temps parlementaire, mais vous vous rendez compte? Enfin, c'est beaucoup de temps.
Le budget de la France, ça durerait plus longtemps.
Non, mais c'est un projet de loi qui est important.
Qui est très important, qui est structurant.
Mais qui n'est pas non plus, c'est pas 80 articles. Il y a un certain nombre de paramètres importants à discuter sur la pénibilité, sur les carrières longues, etc., etc. Et ça, le gouvernement est prêt. Si les oppositions décident de jouer l'obstruction, on n'aura pas le temps d'avoir un vrai débat de fond. Ça, on verra, c'est à elles de décider.
Est-ce que vous redoutez une mobilisation massive? Vous avez vu, bon, cette affiche quand même très forte. À peine Elisabeth Borne avait fini de parler, il y a eu les 8 syndicats qui sont affichés ensemble en disant « c'est inacceptable ». Donc, certains disent qu'il y aura des conflits très forts dans l'industrie, dans l'énergie. On va y revenir, mais est-ce que vous attendez à une mobilisation très forte?
En tout cas, clairement, il n'y a pas de surprise, puisque même les syndicats dits réformistes nous avaient dit...
Ils sont très virulents.
Ils l'ont dit très publiquement, et depuis un an, Laurent Berger notamment, qu'il ne souhaitait pas. Il avait d'ailleurs un mandat de son organisation pour refuser toute hausse de l'âge de départ à la retraite. Donc à partir du moment qu'il y a ce totem, c'est un vrai totem pour l'engager.
Des deux côtés, c'est un totem. Hein.
Non.
Pas si de votre côté,
non,
c'est un totem.
C'était un engagement très fort dans la campagne présidentielle qui, quand même, je le rappelle, a été remporté par Emmanuel Macron.
Il faut quand même rappeler que lors de son précédent quinquennat, il avait dit absolument le contraire, qu'il ne fallait pas de réforme des retraites.
Parce que la situation économique a changé en profondeur. On a eu une crise sanitaire historique, on a des prévisions qui donnent un déséquilibre du système. Mais surtout, il avait dit 65, et on arrive à l'Assemblée avec un projet de loi qui dira 64 ans. On nous avait demandé, notamment les Républicains, mais aussi un certain nombre de voix syndicales, de privilégier la voie dite de l'accélération de la réforme Touraine. C'est ce qu'on a pris en compte. Donc, on souhaite équilibrer le régime. On souhaite aussi en profiter pour renforcer un certain nombre de considérations sur les carrières.
Mais sur la mobilisation, est-ce que...
Oui, donc c'est ça. Donc, on n'a pas de surprise sur le fait que tous les syndicats...
Pour vous, donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir.
Non, mais c'est pas une histoire. Vous dites, est-ce que vous redoutez? Est-ce que vous êtes inquiet? J'entends ici ou là les veillées d'armes, etc. Oui. Moi, je suis assez réservé sur ce vocabulaire extrêmement belliqueux. On est dans du dialogue social à la française, qui souvent passe en partie par les rues. On est dans un processus démocratique extrêmement bien identifié, avec un projet de loi, un temps législatif programmé, etc. Et donc, on va avoir une chorégraphie habituelle qui fait qu'on va avoir des manifestations. On verra l'ampleur de les manifestations. Moi, ce que je peux vous dire, en tout cas, j'en suis convaincu, c'est que quand je vais visiter des usines, à chaque fois, je demande à rencontrer les organisations syndicales. Les gens que je rencontre, ils me parlent d'inflation, ils me parlent de crise énergétique, ils me parlent d'inquiétude sur leur outil de production, ils ne me parlent pas de réforme des retraites. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit la préoccupation première des Françaises et des Français aujourd'hui, mais on verra.
Juste pour reprendre l'expression d'un membre de la CGT qui dit qu'il y a un conflit très dur dans l'énergie. On sait qu'évidemment la CGT est toujours très forte. On l'a vu avec les raffineries, on l'a vu dans le nucléaire, on l'a vu aussi dans les transports, bien sûr. Est-ce que, pour vous, quand même, ministre de l'Industrie, pour les entreprises, c'est une vraie préoccupation? Déjà qu'il y a la crise de l'énergie, mais si en plus on retombe vers des blocages, ça peut devenir dangereux.
Mais on n'en est pas là. Pour l'instant, moi j'entends une journée de mobilisation, le 19, ça arrive régulièrement, ça nous est arrivé quand on a voulu réformer la SNCF.
Mais est-ce que vous ne cachez pas un peu la tête sous votre oreiller?
Non. D'abord, je ne vois pas beaucoup mon oreiller ces temps-ci, donc je n'ai pas vraiment l'occasion de me cacher la tête. Mais surtout, non, j'essaye de voir les choses un peu avec une tête froide, de manière un peu raisonnable. Ça fait partie d'une chorégraphie traditionnelle. Chaque réforme des retraites fait l'objet de contestations. Il y avait un totem qui était l'âge de retraite. On a décidé de continuer à avancer parce qu'on a été élu pour ça et parce qu'on souhaite rééquilibrer le système. Les organisations syndicales sont contre. Elles vont manifester contre.
Oui, je pense qu'on rentre dans un conflit dur.
Non, mais il y a quand même un... Oui, mais ça c'est
là aussi, on leur demande une chorégraphie.
De leur souhait. On verra. Moi, ce que je sais, c'est que on a fait... La Première ministre a annoncé hier une réforme qui, je pense, est équilibrée. On va avoir un processus démocratique. On a un certain nombre de mouvements politiques qui se synchronisaient pour cette réforme, y compris dans l'opposition. J'espère qu'on va avoir un débat démocratique sain avec des passages obligés, notamment des journées de mobilisation.
Est-ce que ce climat social peut quand même peser sur la croissance? Lorsque vous regardez le rapport qui est publié chaque année, juste quelques jours avant le forum de Davos, où du reste je passerai toute la semaine, on voit que le cinquième risque à court terme, justement, c'est le risque de division sociale. Et ça, c'est un risque. C'est auprès de centaines de chefs d'entreprise. Et là, c'est un peu le risque qui pèse sur la croissance française, en tous les cas, qui inquiète les chefs d'entreprise.
Non, mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de risques. La crise énergétique, on l'a dit, la guerre aux portes de l'Europe, le risque budgétaire. Il y a des pays aujourd'hui, le Royaume-Uni, pour ne pas le citer, qui font face...
Oui, mais là, je parle du risque social, puisque c'est leur classement.
Nous, notre travail en tant que gouvernement, c'est d'équilibrer tous ces risques. Rééquilibrer le système des retraites, c'est rassurer aussi beaucoup de personnel, y compris d'ailleurs dans les entreprises, des jeunes, sur le fait qu'on va pérenniser ce système de retraite. On pourrait dire, on ne réforme pas, on se cache derrière, non pas notre oreiller, mais notre petit doigt, dès qu'on a un risque d'opposition... On recule. C'est pas le genre de la maison, c'est ni le genre du président Emmanuel Macron, ni le genre de son gouvernement. Donc, on réforme. On le fait.
Inquiétudes des chefs d'entreprise.
Non, mais j'entends.
De l'autre côté.
J'entends. D'un autre côté, ce que j'ai entendu aussi, c'est les organisations de chefs d'entreprise qui disent banco pour la réforme, qui considèrent qu'ils ont été attendus, notamment sur la brutalité, etc. Donc, je pense qu'on a une réforme qui, en tout cas, du point de vue des chefs d'entreprise, répond à des interrogations concrètes qui sont, est-ce que vous allez réformer? Est-ce que vous allez limiter les comptes publics, les déficits publics? Et est-ce que vous allez, finalement, nous donner des perspectives assez claires sur le fait qu'on a besoin de travailler davantage, y compris chez les seniors? Je veux dire, juste, je m'arrête une seconde là-dessus, parce qu'on n'en parle pas assez. On parle du travail des seniors, travail des seniors.
Ah ben si, on en parle beaucoup, quand même.
Oui, mais je veux juste rappeler, en France, il y a un tiers des gens qui ont plus de 60 ans qui travaillent. En Allemagne, c'est
le problème du taux d'activité, c'est ça, bien sûr.
Mais oui, mais je veux dire, si on ne prend pas ça à corps, y compris d'ailleurs les chefs d'entreprise qui ne travaillent pas assez là-dessus,
c'est surtout eux,
on ne va pas y arriver. Ouais. On a besoin de travailler davantage pour continuer à financer.
Je voudrais, mais avec vous, comme vous êtes ministre de l'Industrie, il y a quand même beaucoup de questions à vous poser. Juste sur la crise de l'énergie, on va s'attarder trop longtemps, mais malgré tout, il y a un tiers des PME industrielles qui vont devoir renouveler leur contrat en 2023. On a vu que par rapport au fait de pouvoir renégocier avec les fournisseurs d'électricité, il y a quand même beaucoup de PME, de PMI qui rentrent pas toujours dans ça. Est-ce qu'il faut pas élargir, dire toutes les PME, les PMI en dessous de 1000 salariés, eh ben elles peuvent y aller.
Mais ça coûte une fortune.
Oui. Donc, on pas peut une fortune, quoi. C'est quoi, c'est,
vous avez non, mais c'est des dizaines de milliards d'euros d'élargir.
De renégocier. Non, je ne parle pas du bouclier tarifaire, je parle de la renégociation.
Oui, mais ça revient à ça, si vous voulez. Soit vous mettez le secteur énergétique sur les genoux. Parce que je veux bien qu'il y ait eu quelques excès ici ou là, et d'ailleurs on y travaille, de manière à ce que le fardeau du bouclier tarifaire qu'on a mis en place pour les TPE soit partagé avec les fournisseurs. Mmh. Mais moi je ne souhaite pas que le secteur énergétique français soit sur les genoux. Moi je souhaite qu'EDF investisse dans des réacteurs nucléaires. Je souhaite que Total Energy et Engie continuent à se développer pour assurer la décarbonation, etc. Donc aujourd'hui, j'allais dire malheureusement, ou heureusement, il n'y a pas de profiteurs dans cette histoire. On a une guerre aux portes de l'Europe. Elle nous coûte beaucoup d'argent parce que c'est un choc énergétique du type de celui qu'on a vécu dans les années 70, on partage la douleur. Le gouvernement français a décidé de protéger énormément les ménages. Et tant mieux, l'inflation y est plus basse qu'ailleurs. Et surtout, la croissance résiste.
Oui, oui. Non, mais là, ici, on a reçu beaucoup de chefs d'entreprise qui sont exactement le modèle. C'est l'ETI qui se trouve dans les territoires, etc. Ils nous disent tous, bah, nous, c'est la catastrophe, on ne rentre pas du tout.
Alors,
et donc là, il y a un vrai problème.
Enfin, moi, envoyez-les-moi, mais la plupart des ETI.
Elles du côté Tuan, par exemple.
Qui consomment de l'énergie, rentrent dans les aides. On les a simplifiées.
Non, elles ne rentrent pas dans les aides.
Alors, vraiment, faut qu'ils aillent voir et qu'ils fassent la simulation, parce que ça a beaucoup changé depuis mi-octobre. Ce que je peux vous dire, c'est que entre six mois qui précédaient mi-novembre, on avait dépensé 15 millions d'euros. Donc, on a déjà fait x6.
Là, vous fermez le banc. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas.
Non, ce que je veux dire, c'est que on a un dispositif maintenant très complet. Les ménages, les TPE, les PME, les ETI, les grandes entreprises, y compris les
énergies. Ben non, les PME, les ETI, il n'y a rien.
Si, mais si, on a l'amortisseur et le guichet.
Ouais.
Donc, on a quand même tout un dispositif aujourd'hui qui fonctionne.
Encore les conditions d'attribution de l'amortisseur, tout ça, sont très, très, très resserrées.
Non, elles ne sont pas très resserrées. On les a élargies très largement. Et par ailleurs, on le dit peut-être pas assez, mais aujourd'hui, le prix de l'énergie, il a quand même beaucoup baissé par rapport aux folies qu'on avait cet été, au printemps, et à l'automne, pardon. Et on est sur des niveaux. L'électricité avant la crise, elle valait 100 euros le mégawatt. Elle est montée jusqu'à 1000. Maintenant, elle vaut entre 150 et 180. Donc, c'est des hausses. Mais c'est des hausses qui sont globalement absorbables. Donc, on a besoin d'accompagner les entreprises. On a besoin, ça, je le reconnais, de mieux faire connaître nos aides. On a des fonctionnaires dans chaque département. Ça a été simplifié. Très grandement. Mais on a besoin d'aller voir les entreprises pour leur dire, vous y avez droit, aidons-nous à vous aider.
Vous avez fait une petite explication au chef de l'État, parce que lui, il avait l'air de trouver que ce n'était pas simple.
Oui, et d'ailleurs, suite à cette prise de parole qu'on a quand même encore pas mal simplifié, notamment pour les TPE, parce que c'est vrai que pour les TPE, c'était encore
Est-ce que ça ne menace pas la réindustrialisation, la relocalisation d'entreprises Safran, les entreprises du médicament beaucoup se posent, Sanofi se posent la question.
Bien sûr. Et donc aujourd'hui, il faut à la fois accélérer tous les plans de décarbonation, d'innovation, d'investissement stratégique, on appelle ça France 2030.
Oui.
Non mais on a engagé 11 milliards d'euros en 2022 et on va en engager 54 d'ici 2030. Ce qu'il faut, c'est que cet argent, il arrive. Une des raisons pour laquelle la France s'en sort beaucoup mieux que les autres face à ce choc énergétique, c'est France Relance. On a dépensé 100 milliards d'euros en 3 ans pour relancer l'économie française. L'argent, il est en train de finir d'arriver aujourd'hui. Moi, j'inaugure des usines régulièrement dans l'électronique, dans l'automobile, dans les composantes automobiles qui ont profité de cet argent. Ça, ça permet de soutenir la conjoncture. Il faut le faire pour France 2030 également. Il faut accélérer, il faut simplifier, y compris d'ailleurs, vous l'avez dit, pour les PME, les ETI.
Oui, mais on va prendre un exemple tout bête là, qui vient de tomber, comme on dit dans notre jargon, Roland Lescure. Exelia, donc fabricant de composants électroniques, très important. Hop.
Non mais
pas
ça va
pavillon
part,
américain.
Non mais attendez, Exelia ça va nulle part, ça reste en France. La différence c'est qu'on
passe. C'est racheté par les Américains.
Oui, on passe d'un actionnaire.
Un drapeau français ou pas drapeau français?
On avait un drapeau Union Jack, on avait un drapeau anglais, parce que l'actionnaire d'Exelia il était anglais. Maintenant il devient américain. On a fait jouer, et ça c'est une disposition qu'on a votée, que j'ai fait voter dans la loi.
Il fallait que Bercy donne son accord.
Exactement.
Et vous l'avez donné.
Et on l'a donné sous condition. D'abord, l'État n'était pas actionnaire d'Exelia. L'État a pris une action d'Exelia qui lui donne droit à une action spéciale, qui lui donne droit à la gouvernance et qui, y compris, lui donnera un droit de regard sur toute opération capitalistique, donc éventuellement une vente, à venir. Deux, on a mis un certain nombre de conditions. Exelia, vous l'avez dit, est dans un secteur sensible, donc je ne vais pas vous les énumérer.
Sensible, la défense, oui,
mais
bien sûr, spatiale.
Elles sont listées et Exelia s'engage, et son nouvel actionnaire, à respecter ces conditions. Donc on est passé d'un pavillon anglais à un pavillon américain, avec des conditions supplémentaires et un État actionnaire. On a renforcé aujourd'hui le contrôle sur Exelia. Donc tous ceux qui nous racontent Exelia par à l'étranger...
Valérie Rabault, notamment, qui est vice-présidente de l'Assemblée nationale.
Valérie, vice-présidente, elle a tort. Exelia, aujourd'hui,
même
le contrôle
au ministre
de la France... Oui, et elle nous l'avait écrit avant cette procédure.
D'accord.
La procédure investissement étranger en France... Je fais partie de ceux qui l'ont renforcé avec Guillaume Kasbarian qui m'a succédé à la commission des affaires économiques. On a aujourd'hui une mesure de protection des investissements étrangers en France qui est assez forte. Les Américains ont la même, d'ailleurs, les Anglais ont la même. On était un peu trop naïfs avant. On a renforcé tout ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut fermer toutes les portes. Je veux dire, quand on ferme la porte, elle se ferme dans les deux sens.
Non, mais parce
si on veut que les entreprises...
On sait bien qu'il y a beaucoup de PME françaises qui lorgnent. Il y a même la DGSI qui s'est penchée sur la question en disant
toutes.
Attention.
Non, mais on les regarde toutes. Et je peux
les
vous dire
Chinois,
que
y a
le ministère de la Défense a regardé le dossier aussi. C'est pas juste Bercy qui regarde. Mais si on veut que les entreprises françaises continuent à acheter des entreprises à l'étranger, Bombardier est devenu une entreprise. Alstom, pardon, en achetant Bombardier est devenu une entreprise de classe mondiale. Airbus a accru ses opérations en acquis
aussi des entreprises. Alors, reste un instant.
Des champions français, moi je suis extrêmement fier qu'on en a. On parlait tout à l'heure d'LVMH qui a accru fortement ses résultats. Mais oui, mais
des champions
français qui font travailler des artisans
Ferropem. Bah justement, alors c'est signé ou c'est pas signé?
Mais Ferropem, c'est une excellente nouvelle.
Donc,
Ferropem,
en deux mots,
une entreprise qui faisait du silicium, qui perdait beaucoup d'argent, qui a annoncé un plan social, un plan de sauvegarde de l'emploi en mars 2022. On a continué à suivre ce dossier parce que c'est une usine dans un territoire, fin fond de la Savoie, extrêmement enclavé, avec peu d'activité industrielle. Ugitech, qui est une entreprise française à capitaux suisses, là encore, étranger, est-ce que c'est grave? Non. Va reprendre le site pour faire de l'économie circulaire, pour recycler des vieux métaux, pour construire des batteries. Ça, c'est là.
Ça y est, c'est signé?
Ben, c'est signé. Ensuite, on a aidé à la recherche et développement. On me dit souvent, qu'est-ce que fait l'État pour aider? On a aidé Ugitech à hauteur de 9 millions d'euros pour financer une partie de la R&D. Donc la recherche, c'est fait. Ils reprennent le site. Ils ont ensuite un an et demi d'études pour s'assurer que tout ça va fonctionner. Et ensuite, on va se remettre à produire sur un site qui ne produit plus. Soyons fiers de ces succès. Et franchement, l'État y a joué son rôle, y compris ma prédécesseure Agnès Pannier-Runacher et moi qui ai repris ce dossier depuis 6 mois. Mais ce sont aussi les entreprises, ce sont les salariés, ce sont les élus locaux. Non mais juste, j'insiste.
On est
en train de réindustrialiser la France. Et on va continuer à le faire malgré les vents de face, l'IRA, la crise énergétique, parce que...
Justement, je voulais dire un mot,
il nous reste
à peine 3 minutes, Roland Lescure, sur l'IRA, donc ce mécanisme américain qui tente beaucoup, beaucoup d'entreprises, il ne faut quand même pas s'en cacher, moi je peux vous le dire. Il y a Bruxelles, Thierry Breton, tout à l'heure, a fait une déclaration en disant Bruxelles va riposter, on a déjà 4 propositions à faire, il faut qu'on mette de l'argent, mais il faut que ça aille vite.
Exactement.
Est-ce que la France soutient Thierry Breton?
Alors, oui. En général, on soutient Thierry Breton, et sur ce cas particulier, on le soutient.
Oui, est-ce que ça peut aller vite?
Exactement. Le problème, c'est pas un problème de sous. IRA, 360 milliards de dollars sur 10 ans. France 2030, 54 milliards d'euros sur 8 ans. compte tenu de la taille respective d'économie, c'est autant d'argent. Oui. Le sujet qu'on a, et notamment au niveau européen, c'est qu'on va pas assez vite, vous l'avez dit. Non, oui, ça va vite. Oui. Et donc, nous, faut qu'on aille plus vite.
Et c'est immédiat pour les entreprises. Hein. Enfin, ils vous racontent, c'est fou, quoi. Je veux dire, vous arrivez avec votre projet.
Oui. Enfin, pour l'instant, les décrets d'application de l'IRA, ils sont pas encore connus. Ah, ça va prendre un peu de temps. Ouais. Mais effectivement, une fois qu'ils auront fait tout ça, ça ira vite. Donc, nous, notre défi, c'est d'accélérer. Il y a des secteurs, l'hydrogène, par exemple, dans lequel on a de l'avance. Et ben, quand on a de l'avance, on ne freine pas, on accélère pour aller encore plus vite, pour attirer des entreprises. Moi, je suis sûr qu'on peut attirer...
Très facile aux États-Unis. Chez nous, c'est encore discuté de savoir si c'est l'hydrogène vert ou pas vert.
Alors, il y a un sujet autour de l'hydrogène vert, je pense qu'on va le conclure, parce que là-dessus, on sera extrêmement ferme vis-à-vis de nos collègues allemands. Mais l'hydrogène, pour l'instant, l'Europe a de l'avance. Et je peux vous dire, stay tuned, comme on dit, on va continuer à en avoir. Et moi, je suis sûr qu'on va attirer des investisseurs internationaux pour financer la filière hydrogène en France, parce que la France aujourd'hui, elle est attractive et elle va le rester.
Ouais. Donc l'IRA, donc on a une chance d'avoir notre propre IRA, IRA à l'européenne.
Oui, on a France 2030, faut qu'on accélère tout ça, mais on va y arriver, bien sûr. Moi, je suis extrêmement volontariste. Quand on fait face à une crise, soit on baisse les bras, soit on se serre les coudes et on se retrousse les manches. Moi, je suis dans l'option 2. Jusqu'au bout.
Et on sait que vous n'avez pas d'oreiller. Merci beaucoup, Roland Lescure, d'avoir été avec nous. Ministre délégué en charge de l'industrie. Voilà, si vous voulez réécouter, revoir, évidemment, cette grande interview, vous pouvez la retrouver soit avec le QR code pour ceux qui nous regardent à la télévision, soit sur le site de BFM Business. Dans un instant, Tech & Co, retour à Paris avec François Sorel et Frédéric Sibotel. Bonne soirée.
Good evening business. Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie.